Matcha.
Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Too Matcha, votre chronique culturelle ou contre-culturelle, comme vous préférez, l'émission qui balaye large du mainstream à l'underground. Retour cette semaine à la formule normale, hein, puisqu'il y a 15 jours, on avait consacré une bonne part de l'émission à un entretien avec les excellents black metalleux de Irgal, et notamment leur maître à penser Clément Flandroy. Bon, cette semaine, on revient à quelque chose de beaucoup plus classique, hein, puisqu'on va parler cinéma, on va parler littérature et on va parler BD, le tout bien entendu entrecoupé de quelques intermèdes musicaux. Et comme le veut la tradition, on commence en musique. Et bon, on va écouter un groupe qui a déjà eu les honneurs de l'émission, pas très souvent me semble-t-il, alors que c'est un groupe que je trouve excellent, mais je dois dire que j'ai pas creusé leur discographie comme elle aurait mérité de l'être. Alors c'est du pur métal, hein, là encore, qu'on va écouter aujourd'hui, avec les Irlandais de Primordial. Alors je vais le prononcer à la francophone leur nom, je sais pas exactement d'ailleurs comment se prononce Primordial avec un accent anglo-saxon. Primordial, c'est un groupe donc irlandais qui a été fondé il y a fort longtemps, hein, maintenant plus de 30 ans en fait, en 1987. Bon, à la base c'était un projet voilà, pas très très sérieux, c'était surtout un groupe de reprise d'ailleurs, je crois, là, à la base. Un groupe de reprise de tout ce que le métal extrême comptait de groupes, hein. Voilà, à l'époque le groupe faisait des reprises de thrash et de death, hein, qui étaient deux scènes en pleine explosion à l'époque. Mais les choses vont commencer à changer en fait en 1991. Le groupe s'est formé en 1987. En 1991, il va y avoir l'arrivée du chanteur Alan Averill, qui est un chanteur excellent, au charisme assez fou d'ailleurs, et qui va beaucoup, beaucoup évidemment contribuer au succès du groupe Primordial. Alors les choses sérieuses vont commencer avec les premières démos, hein, à peu près à l'arrivée du chanteur Alan Averill. Mais bon, voilà, c'est une fois que les premiers albums de Primordial vont sortir qu'on va prendre toute la mesure de leur talent. Alors à la base, Primordial, après avoir lâché un peu les racines trash death de leur début, à la base Primordial tourne un peu autour du black metal, même s'il en reste plus grand chose dans la musique à proprement parler, à part un certain esprit, on pourrait dire, commun à la scène black metal, musicalement plus beaucoup, hein, pour être très clair. Dans les années 90, c'était encore un peu le cas, mais avec l'adjonction de tas et de tas d'éléments un petit peu exogènes à la scène purement black metal, même si c'est pas les seuls à l'avoir fait, hein, bien entendu, notamment des éléments très folk, baignés dans une espèce de recours aux racines celtiques du groupe, très très importante, hein, bien sûr, pour le groupe, les racines celtiques de Primordial. Alors c'est surtout à partir du milieu des années 2000, hein, 2004 ou 2005, avec leur cinquième album qui s'appelle The Gathering Wilderness, qui est en général considéré un petit peu comme le moment où la carrière de Primordial bascule, hein, que les choses très très sérieuses vont commencer. Bon, moi il y a un disque qui est sorti à peu près à ce moment-là, le disque suivant en fait, qui est sorti en 2007, qui s'appelle To The Nameless Dead, moi que j'avais adoré, hein, j'en avais passé deux ou trois extraits d'ailleurs ici à l'époque. Voilà, Primordial devient un groupe très très important. Alors c'est marrant parce que je faisais tout à l'heure référence à l'interview de Irgal et de son leader Clément Flandroy, mais justement, je sais pas si les auditeurs les plus attentifs s'en rappellent peut-être, à un moment donné Clément évoquait justement la musique de Primordial et il disait que c'était l'un de ses groupes favoris, et on voit très bien pourquoi quelqu'un qui fait du black metal ou qui s'intéresse en tout cas à cette scène musicale là accroche à Primordial. Il y a un côté incroyablement lyrique, incroyablement investi. C'est beaucoup porté d'ailleurs par le chant incroyablement habité de Alan Averill. C'est pas le plus grand chanteur de heavy metal de la terre, mais il a un chant d'une intensité incroyable. Vous allez le constater d'ailleurs, hein, sur le morceau qu'on va écouter. Voilà, c'est vraiment un groupe ultra respecté, Primordial. Vous allez pas tomber sur beaucoup de gens qui vont vous dire ouais, j'aime pas trop. En général, soit on connaît Primordial et on adore, soit on les connaît pas, ou alors c'est que vraiment ce genre de musique ne nous intéresse pas du tout. Mais bon, voilà. Très très respecté au sein de la scène métal, avec ce qu'on pourrait appeler un espèce de pagan métal, c'est-à-dire un métal inspiré, oui, par les racines paganistes, par les racines celtiques, druidiques, pourrait-on dire presque, du groupe. Tout ça est fait intelligemment en plus, hein, c'est pas juste c'est pas un truc un peu bas de front, tiens, on va mettre des druides sur la pochette et en avant Guingamp. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus creusé, avec notamment des textes, et on va le voir d'ailleurs sur le morceau qu'on va écouter tout suite, hein, des textes qui puisent dans des événements ou des épisodes historiques connus ou pas connus, mais réels. Et puis à partir de là, la musique et les textes de Primordial se déploient. Alors, à partir du moment où Primordial est devenu une valeur sûre, hein, avec les deux disques que je citais là tout à l'heure, The Gathering Wilderness et juste après To The Nameless Dead. Bon, Primordial va ronronner un tout petit peu, même si chacun de leurs disques est toujours de très bonne qualité, mais on va dire qu'ils atteignent une espèce de plateau. C'est aussi le cas avec leur tout dernier album qui s'appelle Exile Amongst the Ruins. Je pense pas qu'il se trouvera beaucoup de fans de Primordial pour dire que c'est là leur meilleur album, leur chef-d'œuvre absolu, tellement il est dans la lignée des 3-4 précédents. C'est leur 9e album, hein, déjà, Primordial. Mais on trouvera pas non plus un fan de Primordial qui va être déçu par ce disque-là, voilà. Et il y a notamment quelques petites pépites, hein, dans le disque, dont le premier single, premier extrait en tout cas, le groupe lui a consacré une vidéo en tout cas, hein, un extrait qui s'appelle To Hell or the Hangman, qui est un des tout meilleurs morceaux de Primordial qui m'a été donné d'entendre. Je connais très mal les débuts de leur discographie, hein, pour être très clair, mais bon, ce disque-là est fantastique, ce morceau-là pardon est fantastique. Exile Amongst the Ruins, bon, il faudrait encore que je le creuse un peu pour me faire un avis définitif sur la question. C'est quand même un album de très très bonne qualité comme d'habitude avec Primordial. Mais ce morceau-là, c'est vraiment un des sommets du disque, incontestablement. Il y a un côté presque, voilà, pas purement métal, quoi. On reconnaît un peu le souffle épique qui habite habituellement les compositions de Primordial, mais avec un feeling presque un peu rock'n'roll, je dirais. J'exagère un tout petit peu, ça reste métal quand même. Bon, enfin, je trouve quand même le morceau extraordinaire. Vous m'en direz des nouvelles. C'est parti tout de suite pour Primordial avec To Hell or the Hangman. We'll be right back. To Hell or the Hangman, extrait du dernier album de Primordial, donc qui s'appelle Exile Amongst the Ruins, qui est sorti là à la fin du mois de février, hein, donc c'est tout récent. Voilà, cavalcade épique, heavy metal en diable. Absolument irrésistible, hein, si vous voulez mon humble avis. Voilà, ça c'est vraiment un des sommets du disque, hein, mais bon, comme d'habitude, Primordial fait fort, hein, avec ce disque-là. C'est le cas un peu de tous leurs derniers disques à partir de The Gathering Wilderness. Voilà, on peut aimer tel ou tel. Moi, j'aime beaucoup The Nameless Dead. Bon, mais voilà, c'est vraiment un groupe très important et qui est apparemment un groupe de tueurs sur scène aussi. J'ai un copain qui connaissait pas du tout leur musique et qui les a vus un peu par hasard, par curiosité quoi, on va dire, au Hellfest, si mes souvenirs sont bons, et qui avait été soufflé par la prestation de Primordial, incroyablement intense, hein, voilà, mais ça se ressent, hein, quand on écoute leur musique. Voilà donc pour les Irlandais de Primordial. On va parler d'un film maintenant, et comme ça nous arrive assez régulièrement, on va décrocher de l'actualité cinématographique, encore que pas tout à fait. Je m'explique. En fait, le film dont on va parler est un film japonais des années 60. En fait, très exactement de 1960. Hein. Je pense que le film a été produit l'année précédente. Donc, fin des années 50, début des années 60. Le film est complètement stupéfiant, comme je vais essayer de vous l'expliquer. Alors moi, ça fait un petit moment que j'en entends parler de ce film-là. Alors, il refait parler de lui. Il y a un petit entrefilé dans le dernier numéro des Cahiers du cinéma. Alors, pour une bonne raison, hein. C'est que l'un des rédacteurs des Cahiers du cinéma, l'une de leurs meilleures plumes d'ailleurs, hein, qui s'appelle Stéphane du Ménildo, c'est un critique de cinéma qui a apporté beaucoup, je trouve, à la ligne éditoriale des Cahiers du cinéma, en essayant d'aller creuser dans les franges un peu, notamment du cinéma d'exploitation, du cinéma bis, mais toujours un petit peu avec la même exigence, on va dire, que la ligne classique des Cahiers, un peu intransigeante, hein, c'est un peu ce qu'on leur reproche habituellement. C'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Et voilà. Ce rédacteur-là, Stéphane Duménildo, qui est intarissable sur le cinéma de genre, ses franges les plus étranges et les moins connues, il a vraiment fait beaucoup de bien, je trouve, au magazine. Alors là, il se trouve que c'est un film qui lui tient beaucoup à cœur, manifestement, parce que je me rappelle qu'il y a quelques mois de ça, voire années, je sais plus exactement quand c'était, il avait déjà consacré un article au film dont on va parler aujourd'hui. Pas un article entier peut-être, mais en tout cas un assez long passage dans un article consacré à ce film dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Jigoku. Jigoku, ce qui signifie littéralement en français l'enfer. Et le film est également connu sous son titre international Hell, tout simplement. Ou il y a un titre alternatif un peu moins connu, mais on le trouve parfois sous ce titre-là. C'est Sinners of Hell, voilà, les pêcheurs de l'enfer. Bon, j'avais un peu entendu parler du film pour la première fois, je crois, hein, il me semble, via cet article des Cahiers. Et voilà que Stéphane du Ménildo est co-organisateur d'une exposition, sur Paris, au Quai Branly, très exactement. Je crois pas que ça a encore commencé, mais ça va commencer dans pas très longtemps. Et ça va durer jusqu'à la mi-juillet, si je ne m'abuse, hein. Et c'est une expo qui s'appelle Enfer et Fantômes, venus d'Asie, ou d'Asie. Enfer et Fantômes d'Asie. Bon, voilà, j'écorche un petit peu peut-être le nom de cette exposition. Alors évidemment, comme Stéphane du Ménildo, est donc rédacteur dans les Cahiers du cinéma ont, consacré un très très court article au film en disant voilà que c'était un film très étrange, très particulier et totalement raccord bien entendu avec la thématique de cette exposition en question. Ben, ça m'a donné envie, parce que ça fait un moment qu'il dormait sur mes étagères, ça m'a donné envie de voir ce film là. Et le film est totalement stupéfiant, comme je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, Jigoku, c'est un film d'un réalisateur japonais dont je découvre le travail, hein, qui s'appelle Nobuo Nakagawa. Alors, c'est un vieux de la vieille. En fait, il est décédé depuis quelque temps, hein, pour être plus précis. Nakagawa, il est né en 1905 et il va se passionner très très tôt, très jeune, pour le cinéma. Il va notamment écrire, il va commencer par être critique en fait. Alors à l'époque, il est très très influencé par les théories de gauche ou d'extrême gauche, hein, Nakagawa. Je sais pas si ça va le lâcher après au fil du temps, mais à l'époque en tout cas, c'est un peu dans ce genre de revue qu'il écrit. Il s'intéresse à ce qu'on appelle la littérature prolétarienne, hein, comme c'est précisé sur les articles qui lui sont consacrés sur le net, les rares articles, parce que c'est pas non plus il a son entrée Wikipédia quand même, hein. Mais c'est pas un réalisateur très très connu, hein, Nobuo Nakagawa. Et pour autant, c'est un réalisateur extrêmement extrêmement prolifique, puisqu'il a réalisé, tenez-vous bien, la bagatelle de 97 longs métrages. C'est absolument considérable. Alors c'est considérable, mais c'est pas rare non plus au Japon, hein. Alors bon, il va commencer à réaliser des films au milieu des années 30. Il est encore plutôt jeune à l'époque. Il doit avoir 29 ou 30 ans. Enfin, il commence d'abord par être assistant réalisateur, comme le veut un peu la tradition très hiérarchique du cinéma au Japon. Et puis voilà, à la trentaine ou à la mi-trentaine, il se met à devenir réalisateur de films. Alors ça va être très varié. Il va réaliser des comédies, il va réaliser des drames. Il va même réaliser des documentaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'imagine sur le front japonais, quoi, hein. Sur le front asiatique, pour être plus précis, hein. Voilà. Et puis ensuite, il va quand même se spécialiser un petit peu, après avoir tâté un peu de tous les genres cinématographiques, hein. Il va se spécialiser dans les films d'horreur ou les films de fantômes, ce qu'on appelle, donc j'en ai parlé très très fréquemment ici, hein, c'est ce qu'on appelle les Kwaidan Eiga, hein. Alors Kwaidan, contrairement à ce que j'ai pu raconter de manière un peu idiote ici même, parce que j'ai dû le répéter un paquet de fois, j'ai toujours cru que Kwaidan, ça voulait dire fantôme. C'est pas tout à fait exact. J'ai déjà dû faire cette rectification une fois ou deux, hein, mais je la refais parce que j'ai donné la mauvaise version bien plus de fois encore. Kwaidan, ça ne veut pas dire fantôme, ça veut dire récit de fantôme, histoire de fantôme. C'est pas tout à fait la même chose. Et Eiga, ça veut dire film en japonais, tout simplement. Donc Kwaidan Eiga, c'est un film qui raconte une histoire de fantôme, hein, tout simplement. Et c'est un genre majeur au Japon, hein. Alors notamment parce que voilà, il y a une tradition littéraire un petit peu du Kwaidan à laquelle a contribué par exemple un Edogawa Rampo qu'on a évoqué il n'y a pas très très longtemps au sujet de l'adaptation d'un de ses récits en BD, La Chenille. Et puis le cinéma, bien entendu, va s'emparer de ces Kwaidan pour en faire donc des Kwaidan Eiga, et puis des très grands réalisateurs, hein, Mizoguchi par exemple a donné. Puis il va y avoir des très très grands films dans les années 60, un peu après Jigoku, celui dont on va parler aujourd'hui, hein. Je pense bien sûr à Kwaidan, tout simplement, un film qui s'appelle Kwaidan de Obayashi, qui avait eu la Palme d'Or en son temps à Cannes en 63 ou 64, je sais plus exactement. Il va y avoir Onibaba aussi, réalisé par un réalisateur qui s'appelle Kaneto Shindo, si je n'écorche pas son nom. Onibaba est un film incroyable, hein. Ça, quand j'avais vu, j'avais été totalement bluffé. Alors Elle, ou Jigoku, pour la version japonaise, on va dire Jigoku. Jigoku n'est pas un film qui tutoie ces sommets-là. C'est un film hyper intéressant, incroyablement impactant, qui reste en mémoire longtemps après le premier visionnage, ça c'est clair. Mais c'est pas non plus du Mizoguchi, hein. Le film est un peu foutraque. Bon, c'est sûrement lié un petit peu à sa production compliquée. Alors voilà, donc en gros, Nobuo Nakagawa, il est surtout connu en Occident, hein, en dehors des frontières du Japon, pour ce film-là. C'est pas le seul donc qu'il a réalisé, puisqu'il en a fait 96 autres. Il y en a un autre peut-être qui est un peu connu en Occident, c'est un Kwaidan Eiga qu'il a fait à la fin des années 50, aussi en 57 si je ne m'abuse, et qui s'appelle tout simplement Histoire de fantômes japonais. Qui est un film voilà qui tutoie peut-être un tout petit peu le standing de Jigoku en termes de notoriété, mais pour le reste voilà, c'est quand même une filmographie largement occultée par les critiques et les commentateurs ou même les historiens du cinéma occidentaux. Bon, est-ce qu'il y a d'ailleurs d'autres perles dans sa filmographie? Rien ne le dit, hein, voilà. Mais bon, quand on voit Jigoku, on se dit waouh, quand même c'était un réalisateur qui avait de la suite dans les idées. Alors voilà, en gros Jigoku c'est un espèce de film d'horreur, pourrait-on dire très rapidement, qui, comme le nom l'indique, s'attelle à la thématique infernale, donc la thématique de l'enfer. Alors l'enfer déjà, mais lequel a-t-on envie de dire, hein? Bon, il y a des catholiques au Japon, mais c'est pas non plus la religion majoritaire. Hein, évidemment, je crois que la religion majoritaire au Japon c'est le shintoïsme, mais évidemment il y a une tradition du bouddhisme au Japon. Et dans le bouddhisme, tout comme dans le zoroastrisme, tout comme dans l'islam, tout comme donc dans le christianisme, il y a un concept qui existe, et c'est le concept de l'enfer, c'est-à-dire un lieu terrible, un lieu de l'après-vie où l'on se rend après que l'on soit mort, et si l'on a péché, si l'on a fauté, c'est là que l'on va payer donc pour l'éternité en théorie, hein, ces souffrances. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est l'enfer, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que peut-être dans nos esprits occidentaux, peut-être que l'enfer chez nous est très relié au catholicisme et à l'idée comme ça de péché, de culpabilité, de faute. Bon, c'est pas faux, évidemment, c'est le cas. Et puis bon, il y a quelques chefs-d'œuvre de l'histoire des arts qui en attestent. Évidemment, on pense tout de suite à l'enfer de Dante, hein, Dante Alighieri, le célèbre poète italien, qui a donc voilà raconté un voyage à travers l'après-vie, purgatoire, enfer et paradis. Bon, évidemment, on retient surtout l'enfer de Dante et ses visions absolument apocalyptiques au sens premier du terme, quoi. Hein. Voilà, l'enfer évidemment est très très lié au catholicisme, mais en fait, il est très lié tout simplement au concept même de religion. C'est-à-dire que on a souvent fait peser au catholicisme, certainement à raison en grande partie, hein, l'idée que c'est voilà le catholicisme, voire son ancêtre direct, le judaïsme. Hein, on a souvent fait peser sur ces religions-là l'idée de faute à expier éternellement, comme si c'était une invention de ces monothéismes-là. En fait, c'est beaucoup plus vieux l'idée de l'enfer. Quasiment toutes les religions ont un endroit comme l'enfer où l'on va expier ses fautes dans l'après-vie. Ce qui change, c'est les motifs, bien entendu, pour lesquels on échoue en enfer. Voilà. Et peut-être que la religion catholique a monté en épingle, on va dire, certains péchés, certaines fautes, dont on se demande bien si, voilà, avec le recul, on aurait vraiment raison de les considérer comme des fautes. Bon, peut-être que ce qui était considéré comme une faute il y a 3000 ans, très certainement même, ne le serait pas du tout 1500 ou 2000 ans après, quoi. Voilà. Donc, il y a cette idée de l'enfer qui existe chez les bouddhistes, et c'est cet enfer des bouddhistes qui va être exploré donc dans Jigoku, le film de Nobuo Nakagawa. Alors en gros, au début du film, il y a une espèce d'étrange prologue où en fait on voit, c'est assez osé pour l'époque hein, quand même, hein, où en fait on voit des filles, vraisemblablement le devine-t-on, des filles de mauvaise vie, qui se déshabillent, mais totalement gratuitement, comme ça, comme pour exciter un peu la concupiscence du spectateur. Après, on se retrouve avec des visions infernales très brèves. On se rend compte en fait que c'est une espèce de flash forward, hein, qui se justifie d'ailleurs par quelques détails scénaristiques. Et puis ensuite, on rentre dans le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, en gros, hein, on va le résumer comme ça. Le film, qui dure un tout petit peu plus d'une heure et demie, doit durer 1h40 en gros. Hein. Le film est découpé en trois grands actes, trois grands mouvements. Le premier acte, c'est un peu une espèce d'exposition. Le deuxième acte, c'est là que tout déraille et que le film devient un peu fou. Et toute la dernière demi-heure, c'est un incroyable climax qui se passe donc en enfer. Alors, au début du film, on suit un étudiant, j'ai oublié son nom, Shiro, je crois qu'il s'appelle Shiro, qui est un étudiant en théologie. Alors, il se trouve qu'il suit les cours de son propre beau-père, enfin, futur beau-père, hein, puisqu'il va bientôt se marier avec la fille du professeur en question. Et en fait, le professeur en question, au tout début du film, donc, passé l'étrange prologue que je décrivais tout à l'heure, le professeur en question va décrire ce qu'est l'enfer, l'enfer des bouddhistes, mais tout en précisant, ben, comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, mais attention, il y a d'autres enfers, l'enfer des zoroastriens, l'enfer des catholiques, etc. Donc, le concept comme ça d'enfer est d'emblée installé dans la tête du spectateur, bien entendu. À partir de là, bon, on va un peu suivre les pérégrinations de Shiro, et notamment sa drôle de relation avec un de ses amis qui s'appelle Tamura, dont on comprend pas bien quelle est la fonction au début. On comprend que c'est un être qui a quasiment des pouvoirs surnaturels, puisqu'il a l'air d'apparaître comme ça, de temps en temps, presque surgi du néant. Alors, est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est une hallucination de Shiro qui représenterait sa mauvaise conscience? En fait, il y a un peu de tout ça. Le film ne tranche jamais complètement, mais c'est un peu ça, en gros. Tamura et Shiro, un soir, font une virée en voiture, et ils écrasent un homme ivre sur le bas-côté de la route, qui se trouve être un yakuza, c'est-à-dire un gangster japonais, et il va mourir des suites de cet accident, le yakuza en question. Alors, autant Shiro est accablé par la culpabilité, autant Tamura, pas du tout, et il va lui dire, bon, écoute, on va rien dire à la police, de toute façon, tout le monde s'en fout de ce mec-là, etc. Mais Shiro, à partir de là, va développer un sentiment de culpabilité qui va l'amener, quelque part, sur un chemin peut-être expiatoire, où les catastrophes vont se multiplier, où il va se retrouver responsable, là, pour le coup, vraiment, alors qu'il n'était pas au volant, hein, lors du premier accident que je viens de décrire, il va se retrouver vraiment responsable de plusieurs morts dans son entourage, souvent des morts violentes. À ce moment-là, l'histoire, on va passer au deuxième acte de l'histoire. L'histoire se relocalise, en fait. Shiro découvre que sa mère est malade. Je vais pas vous raconter tout le film dans le détail, mais juste pour vous donner une idée un petit peu de ces trois grands mouvements qui constituent le film. Shiro va se rendre auprès de sa mère malade, il va découvrir qu'en fait son père en a marre de veiller sa mère malade et s'est tranquillement installé dans la pièce à côté avec une maîtresse qui semble pas être spécialement portée sur la morale, puisqu'en fait elle drague ostensiblement Shiro lui-même, hein, donc le fils de son amant. Bon, toute cette espèce d'ambiance de déliquescence va se doubler par le fait qu'il y a une espèce de peintre alcoolique dont on découvre lui aussi que bon, ses histoires de cœur sont pas tout à fait claires, qui est en train de peindre un tableau représentant les enfers. Évidemment, voilà, tout ça annonce un petit peu la demi-heure finale. Alors, tout ça devient de plus en plus grotesque, je dirais même presque grotesque en un certain sens. La thématique de la concupiscence, du péché de chair, voilà, du sexe, du stupre, va imprégner de plus en plus le film sur cette deuxième partie, jusqu'à un retournement qui intervient donc à la jonction entre la deuxième et la troisième partie, on va dire à la 60e minute de métrage à peu près. En fait, sans rentrer dans les détails, mais au terme d'une scène totalement rocambolesque, hein, totalement grotesque au sens premier du terme, tous les personnages du film meurent. Bon, c'est pas un énorme spoil hein, que je vous donne. Hein. Quasiment tous les résumés qu'on trouve du film sur Internet signalent ce point scénaristique pour le moins étonnant. Tout le monde meurt et atterrit en enfer. Et là, il va y avoir... Alors, l'enfer bouddhique, c'est pas les 9 cercles qu'on peut trouver dans l'enfer de Dante. L'enfer, donc, catholique. Hein. L'enfer bouddhique, il y a 8 niveaux qu'on appelle les 8 enfers de feu et de glace. Voilà. Et il y a une espèce de, là aussi, hein, de maître des enfers, l'équivalent, on pourrait dire, de Lucifer ou de Satan dans la cosmogonie catholique ou chrétienne au sens large. Une espèce de roi des enfers qui s'appelle Lord Enma, alors qu'il y a une figure bouddhiste qui existe réellement, hein, qui a plusieurs noms. Ça dépend si on va chez les bouddhistes en Chine ou chez les bouddhistes au Japon. Au Japon, il s'appelle Enma. Et en fait, là, il annonce donc à tous ceux qui viennent de mourir et qui viennent d'atterrir dans son royaume qu'ils vont être donc soumis au tourment éternel des enfers. Bon. Et là, la dernière demi-heure du film est totalement folle. C'est incroyablement gore pour l'époque, je trouve, hein, parce qu'on est en 1960. Alors, comme je le lisais dans un article anglo-saxon consacré au film, hein, sur un excellent site, je le cite parce qu'il est fabuleux ce site, consacré au cinéma japonais, c'est un site qui s'appelle Midnight Eye. C'est un site très complet et avec des sacrées plumes aux commandes. Hein. Donc il y a un très bon article sur Jigoku dans le site Midnight Eye. Et en fait, comme c'est précisé dans cet article, quand on pense que les spectateurs des années 60 naissantes, hein, ont été choqués par des films comme Les yeux sans visage de Franju ou encore par Peeping Tom, le voyeur de Michael Powell, ou évidemment Psychose de Alfred Hitchcock, on se demande qu'est-ce qu'ont dû penser les spectateurs qui ont vu Jigoku. Le film va beaucoup, beaucoup plus loin en termes d'horreur graphique. Hein. C'est-à-dire que c'est du gore avant l'heure. En gros, on considère que l'inventeur du gore, c'est vers le début des années 60 aussi, hein, c'est un Américain qui s'appelle Herschel Gordon Lewis, qui est décédé il y a quelques années de ça, qui a réalisé des films apparemment pas très intéressants, je les ai pas vus, hein, mais qui sont des films incroyablement gore et qui sont quasiment les premiers du genre, même si évidemment, comme d'habitude, quand on parle des débuts du gore, c'est difficile de pas évoquer le fameux plan d'un chien andalou de Buñuel et de Salvador Dali, où il y a la lame de rasoir qui passe sur un œil. Oui, c'est un plan gore, mais enfin, tout un chien andalou n'est pas gore non plus. C'est pas non plus le cas de Jigoku, hein, mais la dernière demi-heure est sacrément gore. Hein, mais alors, des fois, on se croirait chez George Romero, j'exagère à peine. Donc ça, c'est déjà très, très étonnant. Et puis le traitement plastique du film, hein, qui a pourtant été tourné très, très rapidement. C'est étonnant quand on voit un petit peu l'ampleur visuelle du film. Hein. C'est pas un énorme budget, hein, manifestement, Jigoku. D'ailleurs, il a été produit par un studio qui s'appelle la Shintoho. Ça veut dire la nouvelle Toho. Toho, c'est une boîte de production très, très célèbre dans l'histoire du cinéma japonais. En fait, il y a quelques transfuges de la Toho qui ont monté leur propre studio. Ils l'ont appelé tout simplement Shintoho, nouvelle Toho. Ben, en fait, le studio a fait faillite juste après avoir produit Jigoku, mais je crois qu'ils avaient déjà des difficultés financières avant ça, et donc c'était pas non plus un budget ultra ultra conséquent. Voilà, la boîte a fermé, du coup Jigoku a été très mal distribué derrière avant d'être récupéré par un autre studio. Voilà, bon, mais globalement ça a été un tournage très rapide. Par exemple, la pré-production du film a été très très longue. Par contre, il a fallu 7 mois à Nakagawa pour préparer le film. C'était considérable à l'époque. Surtout que lui, il avait l'habitude, hein, comme vous l'avez compris, de tourner 3-4 longs métrages par an. hein, puisqu'il a fini par réaliser 97 longs métrages, c'est pas rien. Hein. 3-4 longs métrages, voire 5 ou 6, hein, pendant les périodes les plus intenses de son activité. Donc 7 mois de préparation, ça veut dire que c'était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Il co-scénarise le film d'ailleurs, hein, ce qui lui arrivait pas souvent, si j'ai bien compris. Donc c'était un projet très très particulier pour lui. Alors il y a cette dernière demi-heure finale pour laquelle le film est très célèbre, qui est époustouflante sur le plan plastique, hein, qui annonce, là aussi ça a été dit par quelques commentateurs du film et c'est tout à fait vrai, qui annonce les délires chromatiques qu'on va retrouver chez un Mario Bava en Italie dans le courant des années 60. Mais attention, le film a été tourné quelques années avant ça, hein. Quand Jigoku sort au Japon, Mario Bava fait encore des films en noir et blanc, hein, comme Le Masque du Démon qui est sorti la même année. Et puis les grands films en couleur de Mario Bava, c'est à partir de 63-64, hein, on va dire, avec des films comme Les Trois Visages de la Peur ou encore Six Femmes pour l'Assassin. Mais en fait, Jigoku, qui utilise un peu la même façon de d'utiliser des filtres de couleurs un peu outrés comme ça, une espèce de comment dire, d'expressionnisme en couleurs très très violent, très très puissant sur le plan strictement visuel. Voilà, Nakakawa précède en quelque sorte Mario Bava. Je suis pas en train de dire qu'il a influencé Mario Bava, ça m'étonnerait que Mario Bava ait vu ces films-là, mais bon, voilà, si vous aimez ce genre de mise en scène là avec ce climat absolument effroyable et assez saisissant de la dernière demi-heure de Jigoku. Bon, voilà, on va dire que ce film-là est en mesure de vous intéresser. Et le film se conclut comme ça sur une conclusion mi-figue mi-raisin. Elle semble d'une noirceur absolue dans un premier temps. Puis il y a un épilogue très très court à la fin, quelques plans, 2-3 plans qui vient peut-être un tout petit peu nuancer cette noirceur absolue. Bon, mais le film est vraiment très très noir. Alors, ça pourrait même être considéré comme un film assez désagréable, pour être tout à fait franc, parce que le film, évidemment, avec cette thématique infernale, tourne autour de la notion de culpabilité. Et on pourrait dire, pardon, on pourrait dire comme ça, non pas en dernière analyse, mais plutôt en première analyse, pour le coup. Bon, Nakagawa, c'est très clair, il croit à ces histoires d'enfer, il déteste ces personnages qui sont, il faut le dire, tous plus antipathiques les uns que les autres, et donc il leur fait subir les pires châtiments à la grande satisfaction du spectateur, si jamais lui aussi a détesté les personnages en question. C'est plus complexe que ça, et c'est ça qui fait un peu le sel du film, me semble-t-il, en dehors de ses qualités plastiques absolument ahurissantes, hein. C'est plus complexe que ça. Déjà, ça c'est dans l'article des cahiers que j'évoquais tout à l'heure que j'avais été pêcher cette info, et ça me semble là aussi très très juste, hein. Le film n'est pas simplement une espèce d'exploration de la thématique de la culpabilité sous le mode, on pourrait dire, catholique ou bouddhiste. Hein, je dis pas que le bouddhisme et le catholicisme c'est exactement la même chose, hein, pas du tout, hein, loin de là. Mais je veux dire, globalement, il y a cette idée de bon, vous avez péché dans la vie, vous allez payer dans l'après-vie. Bon, c'est donc ce qui est au cœur de ça, c'est la notion de culpabilité. Et il est évident que le personnage central du film, Shiro, le héros du film que j'évoquais tout à l'heure, il est rongé par la culpabilité. C'est sa principale caractéristique. Mais c'est pas simplement ça. Hein, si j'ose dire, il y a ça, il y a ce côté, voilà, vous êtes rongé par la responsabilité, donc vous allez aller en enfer. D'ailleurs, va-t-on vraiment en enfer comme ça, comme si on y était catapulté? Il y a une idée, alors je ne sais pas d'où elle vient. Est-ce que ça vient de Dante, de l'œuvre de Dante que j'ai pas lu? Je ne sais pas. Moi, j'avais trouvé ça dans une BD d'Alan Moore et j'avais trouvé l'idée absolument étonnante et vertigineuse, hein. Dans une BD d'Alan Moore qui s'appelle Swamp Thing, à un moment donné, le personnage principal va explorer les enfers, tel Orphée qui va libérer Eurydice, sa compagne. Alors voilà, Swamp Thing va libérer Abigail Arcane, qui est sa bien-aimée. Et en fait, quand il arrive en enfer, on lui explique en fait que c'est pas les instances divines qui condamnent les âmes à l'enfer ou qui les sauvent en les envoyant au paradis. Non, ce sont les âmes d'elles-mêmes qui montent au paradis ou qui descendent dans l'enfer. C'est-à-dire que chacun, selon le propre tribunal de sa conscience, est condamné à l'enfer ou au paradis en fonction de ce qu'il pense lui-même, même inconsciemment, de ses propres actions. C'est une idée intéressante, en fait, hein, où le côté tribunal divin est un peu battu en brèche. On peut voir Jigoku un peu de la même manière. Et si c'était les personnages qui se détestaient eux-mêmes, qui allaient en enfer parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font est atroce. Et c'est vrai que tous les personnages du film ont des comportements absolument immondes, hein. Il n'y a pas que les personnages que j'ai cités, il y a des personnages secondaires, comme il y a un personnage de flics totalement corrompus. Il y a un personnage également de médecin qui est très très peu scrupuleux et qui n'hésite pas à donner du poisson avarié à ses patients pour faire quelques économies de bout de chandelle. Enfin, tout ce monde-là va se retrouver en enfer. Peut-être y sont-ils de leur propre chef, d'une certaine manière. Ça, c'est une idée intéressante. Plus évident que ça encore, je dirais que Jigoku va tellement loin dans sa dernière demi-heure dans la description des tourments infernaux qui attendent les personnages, qu'on peut dire aussi que d'une certaine manière, par l'absurde, et Jigoku, mais j'y reviens dans un instant, est un film éminemment absurde, au sens le plus noble et le plus haut du terme, si j'ose dire, hein, d'une certaine manière, Nakagawa, il dit, bon ben, voyez, même ces personnages-là, même ces personnages absolument immondes, absolument détestables, absolument antipathiques, même eux, peut-être qu'ils n'ont pas mérité ça, quoi, quand même. Moi, c'est ce qu'il me semble que le film déploie comme discours. C'est surtout flagrant parce qu'il y a un personnage qui se retrouve à l'enfer parmi tous les autres, qui n'a rien fait de mal, à proprement parler, dans la course du film, sauf un truc, c'est que dans la tradition japonaise, dans la tradition bouddhique, plutôt, plus exactement, dans la tradition en question, en tout cas, il se trouve que les enfants qui commettent le péché, parce que c'est considéré comme un péché, de mourir avant leurs parents, c'est pas leur faute, hein, forcément, je parle pas là de suicide, hein, les enfants qui meurent avant leurs parents, c'est considéré comme un péché parmi les plus élevés, en fait. Et donc, elle, le seul péché qu'elle a commis, c'est qu'elle est morte dans un accident de voiture. De manière, voilà, elle n'a pas cherché à ce que ça arrive, et pour autant, elle est condamnée aux enfers. Donc le sort de ce personnage-là peut-être éclaire celui de tous les autres. Ont-ils vraiment mérité ça? Ça, c'est une piste de lecture qui me semble particulièrement prégnante pour bien saisir le film. Et puis il y a aussi, ça a été dit au sujet du film, et c'est pour ça que j'évoquais la thématique de l'absurde tout à l'heure, hein, il y a aussi un côté un peu existentialiste dans le film, si j'ose dire. Alors, existentialiste à prendre avec des pincettes, hein, évidemment. Existentialisme, c'est cette doctrine qui a pu être, développée par un Camus et formalisée par un Sartre, les deux frères ennemis intellectuels de l'après-guerre les plus importants peut-être en France. Hein. Voilà, à travers ses romans, comme L'étranger, par exemple, Camus a mis en exergue cette espèce de sens de l'absurde, etc. Et puis Sartre, et Sartre, lui, notamment à travers un essai qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme », dont Thomas, mon camarade, avait parlé ici même, je crois, en son temps. Sartre va un petit peu formaliser ça. Et en quelque sorte, c'est quoi l'existentialisme? Ben, c'est la prise en compte du fait que l'existence est absurde et que par conséquent, qu'est-ce qu'il reste si tout est absurde et rien n'a de sens? C'est notre propre responsabilité par rapport à ce que, justement, le destin absurde et aveugle qui est le nôtre fait de nous, nous permet de faire. Ben, en fonction de ce qu'il nous reste comme marge de manœuvre, à nous de jouer, en quelque sorte. Alors là, vraiment, que les philosophes en herbe qui m'écoutent me pardonnent cette espèce de, voilà, hein, de tableau, mais alors vraiment brossé à très gros traits de l'existentialisme, hein. Y a ça dans le film de Nakagawa. Il a un côté un peu existentialiste, notamment cette musique un peu, l'ambiance du film, même sur les deux premiers tiers du film. On va dire l'exposition et le moment où l'histoire commence à déraper et à devenir un peu grotesque et rocambolesque, hein. Y a ce côté un peu, on pense aux films européens modernes de la même époque. Y a même une musique jazzy qui fait très européen, je trouve, pour le coup. Voilà, le jazz, je sais que ça vient pas de l'Europe, mais des États-Unis, mais voilà, il y a ce côté-là. Même, je pense que voilà, c'est une référence esthétique qui baigne l'ensemble du film jusqu'à sa bande originale. Et pour autant, voilà, même si le film va en quelque sorte piocher dans la thématique infernale au sens le plus traditionnel du terme, vous avez fauté, vous allez pécher. Vous avez fauté, vous allez payer. Excusez-moi. Hein. Nakagawa peut-être quand même nous ramène aussi, hein, déporte un tout petit peu la thématique de la culpabilité pour la transformer en son corollaire, hein, ben c'est celui de la responsabilité. Vous voulez pas vous sentir coupable, agissez de manière responsable. En gros, c'est un peu ce que nous dit Nakagawa. Je ne pense pas vraiment, par exemple, c'est une question qu'on peut se poser, qu'on a le droit de se poser quand on est spectateur de films comme celui-là, hein. Est-ce que Nakagawa croit vraiment à l'existence de l'enfer? Je crois pas, pas au sens littéral du terme, ça c'est évident, au sens métaphorique du terme peut-être, mais voilà, il me semble en tout cas, hein, que le film n'est pas cette espèce de film absolument impitoyable avec ses personnages, même si le film est très dur, très noir, parfois désagréable presque à voir, hein. Voilà. Alors je termine la chronique quand même en signalant que au-delà, hein, de cette espèce de demi-heure finale totalement folle, il y a quand même d'autres moments intéressants dans le film sur le plan cinématographique, notamment la deuxième partie. Il y a notamment une séquence assez fabuleuse où deux personnages, ça va très mal se finir d'ailleurs pour l'un des deux, se rencontrent sur un pont, une espèce de pont suspendu très très haut. Pour ceux qui connaissent un peu le coin, ça fait un peu penser à la passerelle d'Oltzarte, en Soule. C'est une espèce de pont suspendu, et en fait, à un moment donné, il y a deux personnages. L'un est habillé en rouge, ça va mal se finir pour ce personnage-là. Et en fait, elle va tomber, en fait. Le personnage va tomber. Et avant ça, quelques minutes avant, elle va faire tomber par mégarde son parapluie rouge, exactement de la couleur de ses vêtements. Cette chute du parapluie, qui ne sert à rien dramatiquement, évidemment préfigure la chute qui va arriver ensuite. C'est très finement filmé, très habilement composé et plutôt fin sur le plan cinématographique. Je cite un exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. Le film est très très intéressant. Alors, il a ce côté un peu foufou, un peu foutraque, qui fait que voilà, il n'a pas cette espèce de suprématie formelle qu'on peut voir dans les films, je sais pas, comme Kwaidan de Kobayashi ou les films de Mizoguchi, voilà, c'est pas tout à fait de ce niveau-là, mais le film compense en quelque sorte par sa générosité, si j'ose dire, hein, façon de parler, hein, vu la thématique, vous l'avez compris, extrêmement noire du film, hein, mais voilà, ça reste en tout cas une curiosité assez incroyable. On a du mal à croire en voyant le film qu'il a été fait en 1960. Pourtant, voilà, hein, le look des personnages nous ramène effectivement à l'année 1960, mais voilà, on a du mal à le croire à cause des éléments qui sont mis en jeu et à cause du traitement de la demi-heure finale qui précède en quelque sorte, hein, toute cette vague horrifique gothique qu'on a pu trouver chez un Roger Corman aux États-Unis, chez un Edgar Allan Poe, chez un Mario Bava, pardon, en Italie, ou dans les films de la Hammer à peu près au même moment en Grande-Bretagne. Voilà, c'est assez dingue, hein, de voir cette demi-heure finale. Elle est totalement saisissante, incroyablement rythmée, hein. Alors là, c'est comme une espèce de tourbillon qui entraîne le spectateur. On la voit pas passer cette demi-heure-là. Heureusement d'ailleurs, parce qu'elle est assez éprouvante, hein, pour le spectateur. Donc voilà, Jigoku de Nobuo Nakagawa, pardon, un film extraordinaire, hein, étonnant, imparfait certes, mais extrêmement saisissant pour le spectateur qui aura le courage de s'aventurer au sein de ces cercles infernaux. Alors on va parler non pas d'enfer mais de mort avec le morceau suivant, puisque le morceau qu'on va écouter s'appelle My Death. My Death, c'est un morceau de Scott Walker, l'incroyable Scott Walker. Bon, j'en ai parlé ici en long, en large et en travers, donc je n'insiste pas. C'est probablement le chanteur qui m'impressionne le plus de tous ceux qu'il m'ait été donné d'entendre. Une voix incroyable. Scott Walker, il commence sa carrière au milieu des années 60, même s'il est américain, je crois, à l'origine. Je crois, hein, qu'il est américain, je veux pas dire de bêtises, mais il part en Angleterre très vite. Il va faire carrière avec un groupe qui s'appelle The Walker Brothers. C'était des faux frères, hein, c'était pas vraiment frères, mais c'est un groupe, on l'a un peu oublié maintenant, les Walker Brothers, notamment parce que l'aura que va acquérir ensuite Scott Walker, à défaut de succès commercial, c'est pas un artiste qui a beaucoup beaucoup marché sur le plan commercial, Scott Walker. En même temps, c'est un artiste tellement exigeant qu'on peut le comprendre, hein. Mais alors, par contre, hein, pendant la on va dire au milieu des années 60, les Walker Brothers, le groupe dans lequel officie Scott Walker, à la base il est bassiste, hein, Scott Walker, bassiste de session, hein. Il allait faire des sessions de basse en studio, et puis en fait, au moment où il s'est mis derrière le micro et qu'il s'est mis à essayer de chanter, tout le monde a un peu écarquillé les yeux. Il a une voix incroyable, il a une voix colossale, inimitable, une voix absolument magnifique. Voilà, hein, c'est vraiment, j'aurais jamais de mots assez forts pour dire à quel point la voix de Scott Walker me bouleverse. Donc il va faire les Walker Brothers, et puis ensuite il va entamer une carrière solo, 4 albums solo, et puis ensuite sa carrière va connaître comme ça une espèce de petit hiatus, et puis ensuite, en gros, à partir des années 80, Scott Walker va sortir un album tous les 10 ans, tous plus extraordinaires les uns que les autres. On les a tous écoutés ici, hein. En 84, il y a Climate of Hunter, qui est peut-être le moins spectaculaire, on va dire, de cette phase-là de la carrière de Scott Walker, mais qui est très intéressant, hein. Après, il y a Tilt, album incroyable, qui lui est sorti au milieu des années 90, en 1995 très précisément, qui comprend peut-être le plus beau morceau de toute la discographie de Scott Walker, un morceau qui s'appelle Farmer in the City. Je l'avais passé ici, moi c'est un morceau qui me fait pleurer à chaque fois que je l'écoute, littéralement pleurer, hein, je veux dire. Dans les années 2000, il va sortir The Drift, un album d'une noirceur incroyable, où Scott Walker va radicaliser son approche esthétique, et tout ça va culminer avec son album sorti en 2013, si je ne m'abuse, qui s'appelle Bish Bosh. On on en avait parlé ici même, et qui pousse encore plus loin les expérimentations déjà entamées sur The Drift. Mais Scott Walker, donc là on va écouter un extrait de sa toute première période en solo, hein. Les quatre premiers albums solo de Scott Walker sont tous intéressants. Bon, le sommet absolu, c'est le quatrième, qui s'appelle Scott 4, tout simplement, hein. Les quatre premiers albums solo, c'est Scott 1, Scott 2, Scott 3, Scott 4. Hein, c'est aussi simple que ça. Alors, sur les, à partir du troisième album solo, et ça va culminer avec le Scott 4, qui est un chef-d'œuvre absolu. Là aussi, il y a un morceau incroyable, hein, je l'ai passé ici à deux ou trois reprises, donc je n'insiste pas. Un morceau qui ouvre donc le Scott 4 de Scott Walker, qui s'appelle The Seventh Seal, ça veut dire le septième sceau, ça fait référence au film de Ingmar Bergman du même nom, ça aussi c'est un morceau incroyable. Mais il y en a d'autres sur les albums précédents. Je suis en train un peu de me replonger dans ces disques-là de Scott Walker, hein. Alors, une des caractéristiques de Scott Walker, c'est qu'à peu près au moment où il en termine avec les Walker Brothers et il entame sa carrière solo, il va tomber complètement amoureux de la musique de Jacques Brel. En fait, il raconte, hein, un jour, il rencontre une fille, elle l'invite chez lui, elle met un disque, c'est Jacques Brel, et là, le choc. Il connaissait pas du tout, il est stupéfait par la puissance de Jacques Brel. À partir de là, il va être obsédé par Jacques Brel. Il va avoir une chance, en quelque sorte, c'est qu'à la même époque, il y a un artiste assez connu en France qui s'appelle Mort Schumann, qui est en train, pour les besoins d'une comédie musicale à Broadway, je crois, d'adapter en anglais les textes de Jacques Brel. Alors, je sais pas si cette comédie musicale va finalement se faire à Broadway, mais en tout cas, Scott Walker a accès à ces textes-là signés Mort Schumann, des adaptations très fines, très complètes, on va dire, très fidèles, d'une certaine manière, des textes de Jacques Brel. Et en fait, sur ses deux ou trois premiers albums solo, Scott Walker cale à chaque fois 3-4 reprises de Jacques Brel. Au final, au mi-temps des années 70, il va carrément y avoir une compilation, qui va reprendre toutes les reprises de Jacques Brel par Scott Walker. Plus d'une dizaine, quoi, en gros, hein, quelque chose comme ça. Alors, sur le tout premier album solo de Scott Walker, il y en a une qui s'appelle My Death. C'est la version donc anglaise, Ma Mort. C'est une reprise d'un morceau de Jacques Brel qui s'appelle La Mort, qui est un morceau assez particulier déjà de Jacques Brel. C'est pas le morceau le plus impressionnant de Jacques Brel en termes d'intensité de sa puissance vocale, etc. Hein. Mais c'est un très beau morceau qui présente cette particularité de s'ouvrir sur un thème issu de la messe traditionnelle. Hein. C'est le fameux Dies Irae, hein, jour de colère que ce jour-ci. Hein, Dies Ira, Dies Illa. Bon, voilà. C'est un truc qui est un peu tombé en désuétude, heureusement, parce que c'était très dark, évidemment. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui meurt et à son enterrement, on dit jour de colère aujourd'hui. Ça veut dire, bon, il est comme tout le monde, il a péché. Bon, ce qui nous ramène évidemment à la thématique qu'on a explorée tout à l'heure pendant la chronique cinématographique consacrée à Jigoku. Voilà, ben, ce thème, vous le connaissez tous, hein, le thème de Dies Irae. Je pense que c'est Liszt, peut-être, le compositeur qui l'a le plus popularisé. On va dire, je pense que c'est sa version qui est la plus connue. Hein. Mais on le retrouve partout. Il y a même le groupe les Melvins, hein, le groupe de rock emmené par Buzz Osborne, qui l'a repris sur un de ses disques assez récents. Et puis évidemment, on entend une reprise au synthétiseur de Dies Irae sur The Shining de Stanley Kubrick, hein, sur le générique de Shining. Ce qu'on entend, c'est Dies Irae, ce fameux thème, qui ouvre également le morceau La Mort de Jacques Brel et qui est également donc présent en ouverture de ce morceau, donc My Death, qui est l'adaptation anglophone donc du morceau de Jacques Brel par Scott Walker. Bon, oserais-je un petit sacrilège, je crois que je l'avais déjà dit ici même, donc je le redis, je préfère les morceaux de les versions de Scott Walker à celles de Jacques Brel. Je sais, ça c'est un peu sacrilège de dire ça, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est celui qui aime qui ne se trompe pas, comme on dit. C'est parti tout de suite pour My Death de Scott Walker.
My death is like a swinging door, a patient girl who knows the score. Whistle for her and the passing time. My death waits like a Bible truth at the funeral of my youth. Weep loud for that and the passing time. My death waits like a witch at night, and the passing time. But whatever is behind the door, there's nothing much to do. Angel or devil, I don't care. For in front of that door, there is you. My death waits like a beggar blind, who sees the world with an unlit mind. Throw him a dime for the passing time. My death waits to allow my friends a few good times before it ends. Let's drink to that and the passing time. My death waits in your arms, your thighs, your cool fingers will close my eyes. Let's not talk about the passing time. But whatever is behind the door, there's nothing much to do. Angel or devil, I don't care. For in front of that door, there is you. My death waits among the falling leaves, in magicians' mysterious sleeves, rabbits, dogs, and the passing time. My death waits among the flowers, where the blackish shadow cowers. Let's pick lilacs for the passing time. My death waits in a double bed, sails of oblivion at my head. Pull up the sheets against the passing time. But whatever is behind the door, you know there's nothing much to do. Angel or devil, I don't care. For in front of that door, there is you.
My Death, adaptation donc de La Mort de Jacques Brel par Scott Walker. Voilà, qui morceau qui, comme à peu près tous les morceaux de Scott Walker, démontre hein, la suprématie vocale de cet artiste incroyable, parce qu'il fait pas que chanter bien hein. C'est lui qui compose la plupart des morceaux qui, enfin bon, quand c'est pas des reprises de Jacques Brel, voilà, il est très très actif en studio. Il y a quelques making of comme ça qui courent sur YouTube, qui traînent sur YouTube, par rapport aux derniers albums qu'il a pu réaliser. Bon, on voit qu'il est très très investi hein, en studio, Scott Walker. On peut vraiment dire que c'est sa vision, évidemment, qui s'exprime dans ces albums-là. Bon, il n'est pas impossible qu'on y revienne hein, à Scott Walker. J'ai une grosse phase de Scott Walker. Ça m'arrive à intervalles réguliers. On risque d'y revenir, peut-être sur cette période-là un petit peu hein, de sa carrière qui est, voilà. Bon, on verra ça dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent. Voilà. En attendant, on va revenir dans les années 60 en toute fin d'émission, hein, pour l'instant BO de l'émission, mais j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler littérature et on va en fait reparler de Jeff Vandermeer, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Pourquoi ? Ben parce que d'une part, on a évoqué son roman Annihilation. Hein, ici même, voilà, un roman qui est sorti en 2014 pour la VO, Annihilation de Jeff Vandermeer, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et vite après, on a également parlé de Annihilation de Alex Garland, un film cette fois-ci, c'est-à-dire l'adaptation cinématographique de ce fameux roman de Jeff Vandermeer. Donc on en a pas mal parlé, c'est pour ça que je ne vais pas refaire le topo un petit peu sur la carrière, la bibliographie de Jeff Vandermeer, on en a parlé déjà. Mais bon, je voulais quand même revenir un petit peu sur son travail, et notamment donc sur ce qu'on appelle la trilogie du Rempart Sud, hein, The Southern Reach Trilogy. Alors, le premier volet de cette trilogie, ben, c'est justement le roman Annihilation, hein, je l'avais dit, j'imagine, quand j'en avais parlé. La suite, c'est Autorité, et c'est le roman dont on va parler aujourd'hui, et vraisemblablement, vite après les vacances, je vous parlerai également du troisième et dernier volet de cette trilogie, qui s'appelle Acceptation. Voilà. Bon, j'en ai parlé, hein, Jeff Vandermeer, donc je n'insiste pas. C'est un espèce de chantre d'un courant littéraire qu'on appelle le New Weird. Alors, il en est à la fois un petit peu le théoricien et un des praticiens, hein, Jeff Vandermeer, parce qu'en compagnie de son épouse même, puisqu'ils sont mariés, ça fait moins répétition. Jeff Vandermeer édite des recueils de ce que lui appelle le New Weird, cette espèce de branche de la littérature fantastique, horrifique, ou un peu tout ça mêlé, qui doit beaucoup à ce qu'on a appelé la Weird Fiction, donc au cours des décennies. Hein. Bon, on peut évidemment citer l'exemple emblématique de Lovecraft, mais c'est très très loin de se limiter à ça, bien entendu. Hein. Voilà, donc Jeff Vandermeer, il est en quelque sorte théoricien de ça, il a peut-être même écrit quelques essais sur la question, il en a édité, et puis il pratique également, puisqu'il est lui-même romancier, et que, notamment pour ce qui est des trois romans qui constituent la trilogie du Rempart Sud, on peut assez facilement les ranger dans cette catégorie-là. Voilà. Alors, c'était surtout flagrant pour Annihilation, un peu moins pour Autorité, mais je vais essayer de vous expliquer ça un petit peu dans le détail. Alors, en gros, un petit retour quand même sur Annihilation, le premier roman de la trilogie, qui met donc en place un petit peu le pitch, on va dire, global de la trilogie. Ce qui se passe, c'est que depuis une trentaine d'années, même si on ne le sait pas peut-être à l'époque du premier roman, hein, c'est pas précisé je crois dans le premier roman, si peut-être, je sais plus, bon, peu importe. En tout cas dans le premier roman, la localisation géographique est pas très claire. Mais en gros, il y a une zone, une espèce de côte oubliée, comme le disent souvent les personnages. Alors on comprend que c'est aux États-Unis en fait. Hein. Il y a une espèce de partie du littoral des États-Unis qui est affectée par un phénomène étrange. Et en fait, il y a une espèce de zone qui se crée, une zone qui s'appelle la zone X, Area X en version anglaise, et cette zone X est une zone où il se produit des faits bizarres, on comprend pas trop ce qui s'y passe, elle est comme ça, on va dire, coupée du reste du monde par une sorte de frontière, une espèce de phénomène, alors on sait pas si c'est un phénomène électromagnétique ou quelque chose de totalement inconnu à ce jour, mais toujours est-il qu'il vaut mieux pas traverser cette frontière parce que sinon on disparaît corps et bien. Est-ce qu'on est désintégré, est-ce qu'on est téléporté dans un autre endroit, est-ce qu'on se retrouve à l'intérieur de la zone X mais on perd notre trace, on sait pas exactement. Bon, toujours est-il qu'il y a une espèce d'agence gouvernementale qui s'appelle précisément le Rempart Sud, d'où le nom, la trilogie du Rempart Sud, hein, qui enquête sur ces événements. Donc, il s'installe juste à la bordure de la frontière de la zone X, et en fait, ce qu'ils s'amusent à faire, c'est qu'ils envoient... Enfin, ils s'amusent, ils font ce qu'ils peuvent surtout, et c'est ce qu'on découvre dans ce deuxième roman de Jeff Vandermeer. Enfin, deuxième roman de la trilogie du Rempart Sud, en tout cas. En fait, il s'amuse donc à envoyer des expéditions dans cette zone X, parce qu'il existe en fait un portail par lequel on peut y rentrer quand même. Bon. Mais une fois que les expéditions sont dedans, soit elles disparaissent corps et bien, soit tout le monde meurt, soit ils en ressortent, mais changés, transformés, bizarres, et souvent pour mourir assez vite après d'ailleurs. Donc vraiment une zone étrange où il se passe des choses très bizarres, et le gouvernement américain cherche à comprendre. Alors, dans Annihilation, en fait, on se retrouver avec la 12e de ces expéditions-là, hein, composée uniquement de femmes, 4 femmes, qui sont désignées uniquement par leur fonction, l'anthropologue, la géomètre, la psychologue, la biologiste, et on suivait surtout en fait les tribulations de la biologiste, puisque le roman se présentait en fait comme une espèce de retranscription du journal de bord de cette biologiste. Et en fait, elle était témoin d'événements extrêmement étranges au sein de cette fameuse zone X. Et puis, il y avait quelque chose qui restait totalement dans l'ombre, deux choses en fait, hein, dans ce premier roman de la trilogie du Rempart Sud. C'est un, ben, quelle est la nature exacte de la zone X ? Ça, il y a quelques éléments qui sont apportés, mais voilà, ça reste quand même très mystérieux à la fin du premier roman. Et le deuxième roman, c'est que, comme une espèce d'ombre un peu méphistophélique qui plane par là-dessus sur les personnages, en fait, on avait l'impression que cette trilogie du, que cette agence du Rempart Sud, ben, savait beaucoup de choses, manipulait un peu comme des pions les membres des différentes expéditions, mais se mouillait très peu en quelque sorte. On avait l'impression qu'ils en savaient long et que nous, on en savait très peu sur eux. Bon. Voilà un petit peu l'impression avec laquelle on reste à la fin du roman Annihilation, donc le premier volet de cette trilogie. Le deuxième volet, qui était très très attendu au moment où ça a été publié aux États-Unis. Alors il faut savoir que les trois volets ont été publiés, tous les trois, je l'avais précisé, hein, c'est une aventure éditoriale un peu particulière. Les trois volets de la trilogie ont été publiés au cours de la même année, l'année 2014. Genre le premier volet en début d'année, le second pendant l'été et le troisième à la rentrée ou à l'automne, quoi. Hein, voilà. Donc il y a eu une énorme attente qui a été générée parce que Annihilation, c'est pas pour rien qu'il a été adapté au cinéma, a rencontré un succès d'estime énorme mais aussi un succès public assez conséquent, hein, je crois. Donc on attendait beaucoup d'autorité et là Jeff Vandermeer assez malicieusement prend à rebours absolument toutes ou presque toutes les attentes du lecteur. En gros, autorité change de focus complètement. Hein. Alors c'est toujours la même histoire, c'est l'histoire de la zone X, c'est l'histoire de cette mystérieuse agence gouvernementale qui s'appelle donc le Rempart Sud, qui semble veiller comme ça, comme une vigie sur cette zone X. Hein. Mais on change totalement donc de point de focalisation, pourrait-on dire. En gros, cette fois-ci, on est immergé jusqu'au cou dans justement les méandres de la fameuse agence gouvernementale, le Rempart Sud. En gros, c'était une agence très mystérieuse et un peu obscure comme ça dans le premier volet. Donc on pouvait imaginer, ah oui, ils doivent en savoir long, ils doivent manipuler tout le monde en connaissance de cause, etc. Et en fait, quand on passe de l'autre côté du miroir, pourrait-on dire en quelque sorte, hein, Jeff Vandermeer nous montre que pas du tout. En fait, dans cette fameuse agence du Rempart Sud, tout le monde est débordé. En fait, personne ne comprend rien à ce qui se passe. Ça fait 30 ans que tout le monde est là à essayer de comprendre ce qui se passe dans cette zone X, mais tout le monde échoue. En fait, ce qu'on comprend, c'est que nous, en tant que lecteurs, on en sait beaucoup plus qu'eux. Ce qui est un retournement assez savoureux, en fait, hein, par rapport au premier volet de la trilogie. On a l'impression d'être complètement largué avec le personnage principal, etc. Et puis, en fait, fort de la lecture du premier volet, on en sait beaucoup plus que les membres qui constituent donc cette agence du Rempart Sud. En fait, on est totalement largué, ils sont totalement largués, mais il y en a un qui est plus largué que les autres, c'est le directeur de l'agence en personne. Excusez-moi. Celui qui est complètement largué, c'est le directeur de l'agence du Rempart Sud, qui s'appelle John Rodriguez. Alors, de manière très ironique, Jeff Vandermeer l'appelle, dans l'histoire du roman, c'est un surnom qui lui est attribué par son grand-père, hein. Il l'appelle Contrôle, c'est-à-dire celui qui est en contrôle ou le contrôle incarné, quoi. Or, on découvre que le personnage en question, John Rodriguez alias Contrôle, puisque c'est son surnom et que c'est surtout comme ça qu'on l'appelle à travers tout le roman, il contrôle rien du tout précisément. Il est en fait fraîchement débarqué au Rempart Sud, il découvre un peu les lieux, il connaît de réputation parce qu'il est lui-même un ancien agent secret qui travaille pour une mystérieuse, là aussi, agence qui s'appelle Central, tout simplement. Très probablement une image fictive de la CIA, hein, on le devine à demi-mot. Et en fait, il travaille donc pour Central. Sa mère est un agent secret également de très haut vol, qui opère à très haut niveau, mais même lui, son propre fils, alors qu'il est lui-même agent secret, il en sait pas beaucoup plus sur les activités de sa mère. Et puis manifestement, c'est un peu héréditaire, cette fibre du secret et du service secret, puisque le grand-père lui-même qui a baptisé John Rodriguez Control, donc qui l'a affublé de ce sobriquet, était lui-même un agent secret. Donc Control, il descend un petit peu de cette lignée d'agents secrets. On comprend qu'il a déçu à un moment donné sa mère et son grand-père, qu'il n'a pas été à la hauteur. Mais bon, voilà qu'il se retrouve avec une mission de taille, c'est redresser le rempart sud, qui patauge dans le mystère que constitue la zone X depuis des années, des années et des années, sans jamais arriver à rien. Alors, pour renforcer un peu le mystère quand même qui entoure la situation de Control, le héros du roman, on découvre qu'il doit à intervalles réguliers rendre des comptes à une espèce d'autorité supérieure qui s'appelle tout simplement la voix. Pourquoi ? Ben parce qu'on ne connaît que sa voix. Enfin, lui en tout cas ne connaît que sa voix au téléphone. C'est un anonyme en fait qui donne des ordres à Control. Control, c'est prévu un petit peu en quelque sorte pour le déstabiliser. Ne sait pas à qui il a affaire. Voilà, ce qui renforce en fait évidemment l'emprise de son supérieur anonyme sur lui. Voilà. Et puis très très rapidement, bien entendu, le personnage principal, donc Control, va se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres dans la zone X. Bon, ça tout le monde le savait, mais aussi dans l'agence du Rempart Sud. Il y a quelques scientifiques un peu bizarroïdes qui semblent en savoir plus long que ce qu'ils ont envie de dire. Il se passe des phénomènes bizarres, et puis surtout, Control se heurte à l'autorité de sa directrice adjointe qui semble ne vouloir qu'une chose, c'est le retour de la directrice qui a précédé Control et qui précisément était l'un des protagonistes du premier volet. Mais ça, c'est un peu une surprise scénaristique que nous réservait Jeff Vandermeer. Mais enfin, c'est dévoilé dès les premières pages du roman, donc je spoile pas grand-chose. Hein. Donc on découvre que la directrice de l'agence du Rempart Sud était en fait secrètement l'un des protagonistes de Annihilation. Bon, j'en dis pas plus, je ne révèle rien de plus. Alors voilà, Control va se débattre avec donc un petit peu les contraintes de la bureaucratie, avec la rivalité qui l'oppose à sa directrice adjointe, avec les secrets plus ou moins bien gardés de l'équipe des scientifiques un peu loufoques qui semble peupler le rempart sud, et il va devoir essayer d'avancer sur le chemin de la vérité concernant la nature réelle de la zone X. Tout ça va passer à travers, et c'est vraiment le cœur du roman, à travers une série d'interrogatoires que Control va mener auprès de la biologiste qui était l'héroïne du premier roman, Annihilation. Et oui, la voilà de retour. C'est un petit peu illogique d'ailleurs pour ceux qui connaissent le roman en question, mais tout ça évidemment va nous être progressivement expliqué. Enfin, je vais être très clair. À la fin de Autorité, on aimerait avoir beaucoup de réponses par rapport aux questions qui sont posées dans Annihilation. Il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça. En fait, il va peut-être falloir attendre le troisième volet, Acceptation, ou peut-être pas avoir de réponse du tout. Ce qui n'est pas un problème, parce que dans la, comment dire, dans la démarche globale littéraire menée par Jeff Vandermeer, il est tout à fait cohérent que toutes les réponses aux questions soient pas apportées. Il est également cohérent qu'on assiste à de nombreuses fausses pistes. C'est-à-dire que l'auteur nous amène très très volontairement à penser « Tiens, là, il va se passer tel truc. » Et puis en fait, on attend un truc qui arrive jamais. À contrario, on va avoir des événements qui vont survenir ou des révélations qui vont survenir qui nous prennent totalement au dépourvu. Donc, c'est voilà, il y a cette espèce de mélange entre frustration et... Enfin, le roman, pour moi, tout comme Annihilation, est un vrai page-turner. Hein, ça se lit très vite. Il est deux fois plus long qu'Annihilation. Annihilation faisait un peu plus de 200 pages. Autorité en fait 400, hein, grosso modo. Mais voilà, c'est quand même un page-turner, on a envie d'en savoir plus, quitte à être un peu frustré à la fin. Alors certains lecteurs n'ont pas supporté ça. Bon, moi ça m'a donné furieusement envie de découvrir le troisième volet de la trilogie. Alors, il y a plusieurs choses hein, qui sont intéressantes dans Autorité. Il y a déjà le fait que, contrairement au premier volume, mais c'était très voulu hein, de la part de Jeff Vandermeer, qui est vraiment un auteur très intelligent, hein, qui dose parfaitement ses effets. Hein. Dans le premier volet, on était toujours collé au basque d'un personnage principal, la biologiste, puisqu'on lisait son journal de bord, quoi, en quelque sorte. Mais en fait, on pénétrait jamais son intériorité. On était toujours un peu à distance d'elle. Ça a pu gêner, ça aussi, quelques lecteurs. C'est tout à fait voulu de la part de Jeff Vandermeer, et me semble-t-il, si j'ai bien compris le roman, c'est tout à fait justifié, on va dire, scénaristiquement. Voilà. Dans Autorité, Jeff Vandermeer prend le contre-pied de ça. C'est-à-dire qu'on est complètement dans la tête, dans la peau du personnage principal, le fameux directeur de l'agence du Rempart Sud, donc le fameux Control. Aucun de ces états d'âme ne nous échappe. C'est un contre-pied total donc par rapport à l'approche privilégiée sur le premier volet de la trilogie. L'ambiance également change, notamment Annihilation était un roman notablement dépourvu de d'humour. C'est un roman qui voilà, qui est pas déprimant et plombant, encore que, mais qui ne faisait quasiment aucun usage, ou alors tout à fait parcellaire, hein, mais j'ai pas souvenir comme ça d'exemple qui me viendrait à l'esprit, de l'humour. Alors que Autorité est un roman qui va naviguer dans ces eaux-là. Pas tout le temps, pas toujours, pas forcément de manière très frontale, parfois de manière un peu subtile, assez grinçante en fait, hein, le roman est très ironique, mais voilà, il y a l'injonction d'éléments humoristiques, ça peut paraître un peu surprenant, c'est pas la tonalité dominante du roman, mais c'est quand même un changement de braquet très intéressant par rapport au premier volet de la trilogie du Rempart Sud. Et puis, surtout, je dirais que Autorité, c'est ça qui est peut-être l'élément le plus surprenant, constitue presque un changement de style, carrément, de genre littéraire, par rapport à Annihilation. Annihilation était une espèce de récit entre science-fiction et horreur, pour le dire très très vite. Ces éléments de science-fiction et ces éléments horrifiques sont toujours présents dans Autorité, de manière beaucoup plus discrète, mais globalement on peut dire qu'Autorité est un roman d'espionnage, pourrait-on dire. En gros, on suit les aventures d'un espion qui essaie de démasquer, voilà, qui dans son agence lui dit la vérité, qui lui dit pas. Matinée d'une espèce de fibre, alors ça a été relevé par les commentateurs, je retrouve tout à fait cette fibre-là moi aussi, hein. Une fibre un peu kafkaïenne, c'est-à-dire que en gros, Kafka un peu, voilà, Kafka à la louche, hein, Kafka à gros traits encore une fois, hein. C'est un peu, voilà, évidemment que l'œuvre de Kafka ne se résume pas à ça, ce serait faire offense à cet incroyable écrivain qui était Franz Kafka, mais bon, le côté absurde de la bureaucratie qui opère comme une espèce de piège qui vient broyer les individus. Bon, je vous la fais à gros traits, mais globalement, je pense que vous avez compris. Il y a ça dans Autorité, il y a cette fibre absurde, un peu kafkaïenne effectivement, mêlée à une histoire d'espionnage qui comprendrait également donc des éléments de science-fiction et d'horreur. Ça, c'est très très intéressant. C'est un changement de braquet qui fait qu'en fait, on lit Autorité en étant quasiment constamment surpris. Enfin, en tout cas, pendant les 50 ou 100 premières pages du roman, voilà, on découvre un peu l'atmosphère de ce roman-là, le changement de braquet, donc au niveau du focus, pourrait-on dire, de la focalisation, hein, par Jeff Van Der Meer, et puis voilà, cette espèce de changement de genre carrément. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, hein. Moi, je trouve le roman assez formidable, hein. Je pense que j'ai préféré Annihilation quand même, mais ça se joue à peu. Les romans se ressemblent tellement peu d'une certaine manière que c'est difficile de les comparer tout à fait. Peut-être Annihilation, notamment parce qu'il installe le décor, parce qu'il est plus étonnant, plus déstabilisant peut-être, pourrait-on dire d'une certaine manière. Peut-être Annihilation est-il plus fort. Mais à sa manière, Autorité est tout aussi déstabilisant et tout aussi original. Donc voilà, encore une fois, ça se joue à peu. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que j'ai lu une interview de Jeff Van Der Meer sur Internet qui m'a semblé très intéressante. Je vais arrêter de dire très intéressant au bout d'un moment. J'ai l'impression de me répéter un peu beaucoup là. En fait, Jeff Van Der Meer, il dit qu'au moment où il s'est attelé à l'écriture de Autorité, donc du deuxième volume de la trilogie du Rempart Sud, il venait de voir un film qui est ce documentaire de Rodney Asher, dont on a parlé ici même, je crois, et qui s'appelle Room 237. Et qui est consacré en fait à Shining de Stanley Kubrick, mais sous un angle particulier, c'est que Rodney Asher, le réalisateur du documentaire, en fait compile toutes les théories les plus folles, les plus extravagantes et les plus loufoques, hein, disons-le, consacrées à l'interprétation qu'il est possible de faire de Shining. Bon, c'est un documentaire qui est très intéressant, hein, Room 237. Et en fait, Jeff Van Der Meer, il a dit, moi quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, ok, je sais pourquoi j'aime Shining. C'est parce qu'il y a des tas d'éléments qui n'auraient rien à faire à la base dans l'histoire, mais qui contribuent à enrichir l'histoire, qui sont donc pas gratuits non plus, hein, mais qui voilà, qui entraînent l'histoire dans des eaux qu'on n'attendait pas et qui fait qu'en fait que chaque personne peut y voir un peu ce qu'il veut. Et en fait, Jeff Van Der Meer, il va dire, ben j'avais envie de faire un peu, voilà, d'appliquer les recettes qui sont dévoilées dans Room 237 de Rodney Asher à de la littérature. Ou à, pour le dire autrement, comme le dit Jeff Van Der Meer lui-même, c'est faire une littérature hantée, mais sans fantômes. Alors comment il procède concrètement ? Ben, il se passe des petites choses très bizarres dans Autorité, tellement subtiles que parfois elles nous échappent. Par exemple, je donne deux exemples très simples. Il y a parfois des erreurs volontaires dans dans donc Autorité de Jeff Vandermeer. Des erreurs de continuité, comme dit lui-même Jeff Vandermeer. C'est des erreurs qu'il a volontairement faites pour embrouiller le lecteur, pourrait-on dire d'une certaine manière. Par exemple, et ça fait vraiment beaucoup penser à Shining, hein, pour le coup. D'ailleurs, Jeff Vandermeer avoue que l'idée lui vient de Shining et donc du documentaire qui lui est consacré, Room 237. Il y a des pièces qui, d'un chapitre à l'autre, ne sont pas décrites de la même manière. On comprend en fait qu'elles ont des dimensions différentes. Un coup, la pièce est décrite comme étant plutôt exiguë, et le coup d'après, on décrit qu'en fait, elle est très volumineuse à cause du plafond, qui est très haut, etc. Ce genre de détails-là. Et c'est ce genre de petits détails auxquels, bon, voilà, si on lit pas le roman d'une traite ou dans un laps de temps relativement bref, c'est le genre de détails qui peut nous échapper. Et pourtant, Jeff Vandermeer insiste, hein, quand il parle de son travail, sur ce genre de détails. C'est très important pour lui. L'autre truc que je voulais souligner, c'est les fausses pistes que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des tas et des tas de fausses pistes qui sont pas là non plus totalement gratuites. Jeff Vandermeer le dit, hein. Il dit « Je fais exprès d'utiliser ces fausses pistes pour utiliser un vocabulaire un peu particulier, c'est ce que lui permettent ces fausses pistes-là, qui lui permettent de conditionner le lecteur en quelque sorte. C'est-à-dire de le mettre dans des dispositions d'esprit où il croit savoir ce qui va se passer, et puis en fait, la fausse piste s'avère être ce qu'elle est, c'est-à-dire une fausse piste qui n'aboutit sur rien. Mais pour le climat global du roman et pour l'état d'esprit du lecteur dans son exploration du roman, ça marche du feu de Dieu. Alors, je peux pas révéler ici une des astuces, un des rebondissements. Il n'y en a pas beaucoup des rebondissements, hein, dans Autorité. En gros, on pourrait dire qu'il y a, allez, 3-4 rebondissements principaux dans Autorité. Ça fait pas beaucoup sur 400 pages, hein. Bon, il y en a un qui est extrêmement spectaculaire et qui est un peu le moment qu'attendaient les fans du premier roman. Bon, ça survient. Ça entraîne d'ailleurs toute une dernière ligne droite du roman, les 30 ou 40 dernières pages, qui sont beaucoup plus nerveuses, qui est une espèce de road movie où le personnage principal va se mettre à en pourchasser un autre. Bon, là, ça devient plus nerveux. Le reste du roman est assez statique, hein. Il se passe pas grand-chose, comme je le disais. On assiste un peu aux pérégrinations comme ça de contrôle. Il faut d'ailleurs, hein, qu'il y ait un côté un peu répétitif pour que, voilà, le côté un peu abrutissant de la tâche de contrôle soit un peu, en quelque sorte, transmis également donc au lecteur, quoi, hein. Il faut qu'il y ait ça. Mais voilà, il se passe extrêmement peu de rebondissements, on va dire. Le roman est peu dramatisé d'une certaine manière. Mais il y a un rebondissement qui est très savoureux, qui fait écho d'ailleurs à un rebondissement similaire dans Annihilation, le premier volet de la trilogie, que je ne souhaite pas révéler ici parce que c'est un peu, ce serait en dire un peu trop et ça intervient en plus assez tard dans le roman, mais qui fait écho à tout ce que je viens de dire en fait, à cette histoire de conditionnement du lecteur, à cette histoire d'emploi de fausses pistes qui permettent l'emploi de tel ou tel vocabulaire qui permet de mettre le lecteur dans tel état d'esprit, etc. Voilà. Disons qu'il se passe à un moment donné quelque chose d'un peu similaire pour l'un des personnages. Et c'était déjà le cas dans le premier roman. Donc c'est une thématique, hein, qui que je ne souhaite pas révéler encore une fois ici, mais qui est bel et bien présente au cœur, me semble-t-il, de toute la trilogie. Enfin, on verra quand j'aurai lu le troisième volume et que je viendrai vous en parler ici même. Voilà, donc c'est un roman très spécial, Autorité. Très savoureux, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à sa lecture. Très différent aussi du premier volet. De la trilogie du Rempart Sud, donc en gros un roman totalement désarçonnant dans tous les sens du terme, très abouti sur le plan purement littéraire, voilà. Mais il a quelques défauts qui seraient les défauts de ses qualités, je dirais, hein. C'est que le roman pourra sembler chiant, je vais être très clair, à certains lecteurs, hein, et il ne résout pas grand chose. Même s'il se passe des choses, même, il s'en passe pas beaucoup, mais il se passe des choses assez cruciales dans ce roman. Mais voilà. Bon, pour être très clair, on n'en sait pas beaucoup plus sur la zone X à la fin de Autorité, par exemple. Voyons si Jeff Vandermeer est un peu plus généreux pour Acceptation. Voyons si ça rentre dans son projet littéraire aussi, parce que c'est peut-être tout simplement pas forcément ce qu'il avait envie de faire, hein. Bon, en tout cas, un auteur à suivre, Jeff Vandermeer. Je pense que je vais essayer de lire un peu ses bouquins antérieurs, qui ont très très bonne réputation aussi, parce que c'est quand même un auteur qui est assez impressionnant, hein, je trouve, Jeff Vandermeer. Voilà donc pour Autorité, le deuxième volet de la trilogie du Rempart Sud. On va faire une pause musicale avec un groupe qui n'a jamais eu les honneurs de l'émission. C'est un groupe, je vais être franc, je suis un peu passé à côté, alors qu'il a très bonne réputation et qu'il, en plus, il officie dans un style pardon, dans un style musical qui me parle beaucoup à la base, hein, comme ça, on va dire théoriquement, un peu sur le papier, hein. Le style musical en question, c'est ce qu'on appelle le post-rock ou le rock instrumental, parce que Russian Circles, c'est le nom du groupe qu'on va écouter aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, hein. Russian Circles, c'est un groupe de rock instrumental qui comprend pas mal d'éléments de post-rock dans sa musique, mais c'est pas vraiment non plus tout à fait un groupe de post-rock. Bon, alors le post-rock, c'est ce genre musical dont les chefs de file sont des groupes comme les Écossais de Mogwai, les Islandais de Sigur Rós ou les Canadiens de Godspeed You Black Emperor. Bon, j'en ai parlé en long, en large et en travers ici, donc je n'insiste pas. C'est un genre musical qui a commencé à se mordre la queue, on va dire, il y a une dizaine d'années, grosso modo. Même les derniers disques de Godspeed You Black Emperor, qui sont pas déshonorants, sont quand même beaucoup moins excitants que ce qu'ils faisaient à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Donc c'est un genre qui est un peu qui est un peu moribond, le post-rock. Je l'ai déjà dit à de multiples reprises ici, hein. Mogwai s'en tire un peu mieux, mais parce que justement ils font plus tellement du post-rock à proprement parler, Mogwai. Russian Circles, ils sont déjà, même si voilà, on trouve plusieurs autres éléments stylistiques, hein, dans leur musique, mais ils sont un peu les derniers tenants d'un post-rock de qualité. Et eux n'ont pas sombré, si j'ose dire, avec le reste de la scène, hein. Alors, ils ont notamment une réputation de groupe live absolument incroyable, hein. Ils ont énormément tourné, Russian Circles. C'est ce qui leur doit d'ailleurs leur réputation assez énorme. Ils sont passés il y a quelques mois de ça, je les avais loupés, mal m'en a pris, à la Tabale de Biarritz. Alors, tous ceux qui ont assisté au concert m'ont dit que c'était un concert absolument extraordinaire. Donc, c'est un groupe live très très impressionnant, qui a déjà 5 ou 6 albums, derrière lui, hein. Alors, moi, je découvre un peu Russian Circles avec leur dernier album en date. Pas tout à fait leur dernier album en date. Ils ont sorti un live l'année dernière, en 2017, dont je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Bon, vu leur réputation, leur excellente réputation sur scène, j'imagine que l'album live est intéressant. Mais à part ça, leur dernier album studio, on va dire, c'est à la mi-2016, je crois. Et c'est un album qui s'appelle Guidance et qui, d'après ce que j'ai pu en lire, hein, est peut-être celui de leur album qui a remporté le plus fort succès critique. C'est un excellent cru, manifestement, de Russian Circles. Alors moi, j'ai été assez époustouflé par la découverte de cet album. J'aime beaucoup le post-rock, j'aime beaucoup le métal, comme le savent les auditeurs réguliers de cette émission. Ben, Russian Circles pratique une espèce de musique à mi-chemin entre métal et post-rock. C'est assez intéressant, notamment sur le morceau qu'on va écouter tout de suite, qui s'appelle Vorel, qui est un des morceaux les plus musclés, hein, disons-le, de l'album. C'est parti tout de suite pour Vorel, issu de Guidance, et c'est signé Russian Circles. Vorel, issu du dernier album studio en date de Russian Circles. L'album s'appelle Guidance. Il est sorti il y a un petit peu moins de 2 ans maintenant. Bon, vu que les sorties discographiques s'enchaînent sur un rythme plutôt soutenu chez Russian Circles, on devrait peut-être pas trop tarder à voir le successeur de ce disque-là. Voilà, bon. Un petit détail à noter hein, concernant ce disque de Russian Circles, c'est que tous les noms des morceaux sont baptisés selon des noms de villes. J'imagine peut-être traversés par Russian Circles en tournée, je ne sais pas, ou peut-être que le critère de choix a été tout autre, j'en sais rien en fait. Bon, c'est pas des villes, c'est pas Moscou, Paris, Londres, hein. C'est des villes beaucoup plus obscures que ça, obscures dans le sens moins connu, hein, je veux dire, bien entendu. Vorel, je sais même pas où c'est. Bon, voilà, mais si vous êtes curieux et amateur de géographie, vous pourrez vérifier ça par vous-même. On va parler de bande dessinée tout de suite. Avant de finir en musique avec un petit peu l'instant BO de la semaine, comme on le fait assez régulièrement. Hein. On va parler de bande dessinée avec une BD dont j'avais parlé en son temps, qui est encore et toujours signée par notre ami, on en parle tellement ici qu'on peut l'appeler notre ami maintenant, je pense, par notre ami l'Écossais Grant Morrison. Hein. On va parler d'une bande dessinée qui s'appelle GLA, alias Justice League of America. Justice League of America, c'est pas une bande dessinée qui a été créée par Grant Morrison, bien entendu. En fait, c'est une BD qui appartient au patrimoine historique, pourrait-on dire, de DC Comics, l'un des deux plus grands éditeurs de bandes dessinées aux États-Unis, l'autre étant Marvel Comics, bien entendu. Chez DC Comics, en fait, bon, il y a des personnages emblématiques, Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern, Flash, etc. Bon, et puis à un moment donné, il y a un éditeur chez DC Comics je crois que c'est Julius Schwartz si je ne m'abuse, qui s'est dit au tout début des années 60, mais pourquoi ferait-on pas un comics qui réunirait tous ces personnages et puis pour leur faire vivre des aventures un peu voilà, c'est-à-dire toutes les menaces que ces personnages ne pourraient affronter seuls, ben ils les affronteraient en équipe, quoi. Voilà. Alors le concept n'était pas tout à fait nouveau, puisqu'en fait il y avait un titre qui est l'ancêtre direct de celui-ci, hein, qui datait des années 40, qui s'appelle ce qu'on appelle l'âge d'or des comics, hein, le Golden Age of Comic Books, un titre qui s'appelait la Société de Justice. Et puis son ancêtre direct au début des années 60, en fait, c'est baptisé la Ligue de Justice, Justice League of America, la Ligue de Justice d'Amérique, hein. Voilà. Et en gros, on a affaire à des histoires où tous ces personnages qui sont en eux-mêmes déjà un peu larger than life se retrouvent pour affronter des menaces encore plus extraordinaire, sachant en plus qu'à ce moment-là, on est dans une période, notamment chez DC Comics, mais pas que chez DC Comics, hein, où les auteurs se risquent à des choses un peu plus aventureuses. On va pas tarder à tomber dans la grande période du psychédélisme dans les comics, qui va un tout petit peu anticiper d'ailleurs le psychédélisme tout court, hein, tel qu'on l'a connu comme phénomène contre-culturel à la fin des années 60. Voilà, et puis il y a il y a des éditeurs ou des scénaristes, voire des personnes qui remplissent ces deux fonctions à la fois, qui vont tirer certains personnages vers un côté plus étrange, plus étonnant, plus inventif, aussi plus imaginatif, hein. Je pense à un éditeur qui s'appelle Mort Weisinger, qui a œuvré sur le personnage de Superman, pardon, dans les années 50 et qui a fait des choses très très étonnantes avec le personnage de Superman. C'est un peu, voilà, à la croisée des chemins de cette veine-là chez DC Comics et du proto-psychédélisme qu'on va pas retarder à retrouver, notamment par exemple chez Marvel, avec un titre comme évidemment Doctor Strange de Steve Ditko. Bon, Justice League of America, il y a des acharnés. Par exemple, je me rappelle avoir lu la préface d'un auteur signé par un auteur qui s'appelle Mark Waid, qui est un scénariste de comics parmi les tout meilleurs en activité à l'heure actuelle. Il a signé la préface d'un album intitulé Squadron Supreme. Et Squadron Supreme, c'est un scénariste qui est décédé aujourd'hui très prématurément. Il avait 50 ans à peine, je crois, quand il est décédé. même moins que ça, je crois. Il est mort subitement d'une crise cardiaque. C'est un scénariste qui s'appelle Mark Gruenwald. Et que ce soit Mark Gruenwald ou Mark Waid, ce sont deux incollables sur la continuité chez DC Comics. C'est-à-dire, voilà, ils connaissent tout chez DC Comics. Et Mark Waid raconte dans la préface à laquelle je faisais allusion que leur jeu, un petit peu leur défi, c'est de dire, tiens, je te donne tel numéro de la Justice League des années 60 et tu me dis ce que raconte l'épisode en question. Ou vice-versa. Et puis... aucun des deux ne se trompait jamais, quoi. Ils étaient incollables là-dessus. Donc c'est pour dire que voilà, il y a des aficionados quand même de cette période-là, extrêmement stimulante et enrichissante, notamment j'imagine pour les futurs scénaristes de comics comme Mark Gruenwald ou Mark Waid, hein, qui ont souvent été chercher leur inspiration dans ces comics-là. Puis Justice League of America, ça va devenir un titre un peu vaisseau amiral, on va dire, chez DC Comics dans les années 70-80. Le titre va connaître plusieurs phases. À la fin des années 80, il va y avoir une phase très intéressante qui s'appelle Justice League International, qui va être menée par deux scénaristes de comics en particulier, à savoir Keith Giffen et Jean-Marc DeMatteis, accompagnés au dessin par un certain Kevin Maguire, excellent dessinateur qui n'a pas son pareil, il est très connu pour ça, pour figurer les expressions faciales et les mimiques des personnages, il fait ça de manière extrêmement réaliste. Ça marche bien notamment sur le registre comique, et ça tombe bien parce que Keith Giffen et Jean-Marc DeMatteis passaient une période où ils ont un petit peu apprivoisé le titre, ont tiré Justice League, alors que c'était pas forcément le titre qui s'y prêtait le plus, vers la frange déconnade et la frange rigolade. On s'attendait pas forcément à cette itération-là. Et puis en fait, le titre va commencer un petit peu à tomber en désuétude vers le début, milieu des années 90, et voilà que DC Comics va solliciter Grant Morrison, qui est déjà très actif chez eux, hein. Il a beaucoup écrit notamment pour le label Vertigo, des titres comme je sais pas moi, enfin d'ailleurs à la base c'était pas des titres Vertigo, ils ont été attaché au label Vertigo rétroactivement, mais peu importe, ça c'est un détail, mais des titres comme Animal Man, comme Doom Patrol, Les Invisibles bien sûr, qui est peut-être le magnum opus de Grant Morrison. Alors, pendant qu'il est en train justement de commencer à écrire Les Invisibles, DC Comics décide de confier ce très très gros titre, donc Justice League, mais qui est un peu mal en point à l'époque, au scénariste écossais. Et Grant Morrison va dire, ok, je vais écrire la Justice League, mais à une condition, c'est que je puisse utiliser tous les plus gros personnages. C'est-à-dire que Grant Morrison ne comprend pas pourquoi, alors que dans les années 60 c'était le cas, ce ne sont pas les principaux personnages de DC Comics, les plus gros pourrait-on dire, les big guns comme on dit, hein, qui se retrouvent dans la composition de l'équipe. Alors en fait, DC Comics va lui accorder ça, et donc du coup la composition de la Justice League telle que va la relancer Grant Morrison au milieu des années 90, ça va être que ça, que les personnages principaux. Batman, Superman, Aquaman, Flash, Green Lantern, Wonder Woman, bien entendu. Bon, et puis voilà, on va avoir ce noyau de personnages-là, d'autres personnages qui vont graviter autour. Grant Morrison va en inventer certains. Hein, je pense par exemple à un personnage qui s'appelle Zoriel, qui est tout simplement un ange descendu du paradis pour vivre parmi les humains. Bon, voilà, il va quand même aussi pas simplement se reposer sur des personnages existants. Et Grant Morrison, il a une idée simple, pourrait-on dire, hein, pour driver son titre. Hein, c'est il dit bon ben pour moi, c'est pas le seul, hein, bien entendu, c'est le cas pour beaucoup de gens. Pour moi, les principaux héros de l'univers DC Comics, ceux que j'ai cités, c'est simple, c'est une sorte de version moderne des panthéons antiques, et notamment du panthéon gréco-romain. En gros, Superman, c'est Zeus, Aquaman, évidemment, c'est Poséidon ou Neptune, Wonder Woman, c'est, je sais pas, Athéna ou Hera, enfin, ce qu'on voudra, Batman, c'est Hadès ou Pluton, le seigneur des enfers, évidemment, Flash, qui court plus vite que son ombre, c'est Mercure. Bon, voilà, il y a Hermès donc, hein. Il y a des correspondances qui se font comme ça assez facilement, et donc Grant Morrison il dit, ben, puisqu'on a quasiment affaire au panthéon moderne version DC Comics, autant les confronter à des, ben, exactement comme l'esprit du titre à l'origine dans les années 60, hein, à des menaces complètement folles, larger than life comme on dit, hein. Alors ça c'est un des axes qui va guider Grant Morrison, et un autre des axes un peu plus surprenant, mais Grant Morrison a été très très explicite sur la question, hein. Ça peut paraître plus étonnant, c'est que Grant Morrison, quand il était jeune lecteur, il est né en 1960, hein, Grant Morrison, donc quand il était tout gamin et qu'il lisait des comics, c'était un peu le boom des Marvel Comics. Mais Grant Morrison, il, en fait, à l'époque, le dessinateur vedette chez Marvel Comics, c'est Jack Kirby. Grant Morrison, il dira qu'il a eu du mal à rentrer dans le style Jack Kirby, qu'il l'effrayait un peu quand il était gamin. Il va devenir un inconditionnel du travail de Jack Kirby, mais plus tard, quand il va être adolescent ou jeune adulte. Mais quand il est enfant, il aime pas trop ça. Et puis, de toute façon, il aime pas tellement l'approche globale des comics Marvel, qui est de faire des héros à problème. C'est-à-dire, en gros, le personnage emblématique de ça, c'est Spider-Man, qui est un lycéen, bientôt un étudiant, mais fauché, sans le sou, qui doit veiller sur sa vieille tante qui a des gros problèmes de santé, et qui, en plus, doit jouer les justiciers masqués parce qu'il a le sens des responsabilités. Mais en gros, on assiste aussi à ses problèmes du quotidien. Idem pour la quasi-majorité des autres personnages Marvel. Les Fantastic Four, c'est une espèce de famille dysfonctionnelle, ils arrêtent pas de se disputer entre eux, ce qui est évidemment très réaliste. Hulk, c'est un personnage monstrueux qui est un paria qui est rejeté par l'intégralité de la société. Donc, en gros, ce sont des persos à problème, pourrait-on dire, d'une certaine manière. Grant Morrison, il aime pas tellement cette approche. Il dit, moi, je préférais le côté DC Comics à la Justice League of America. En gros, les héros, ils ont pas beaucoup de problèmes. Ils arrivent, il y a une crise à gérer. Ils règlent la crise, ils se cassent et ils sont à peu près inchangés par l'action qui a été menée. Alors ça peut paraître comme ça sur le papier moins intéressant scénaristiquement. Je veux dire, théoriquement, l'approche Marvel Comics peut paraître plus fouillée, plus novatrice, plus moderne. Mais en fait, il n'y a pas tellement à comparer une approche par rapport à l'autre. Ce sont deux approches différentes. Il n'y a pas forcément l'une qui est qualitativement supérieure à l'autre. Hein? Mais bon, voilà, il y a quand même cette différence qui existe. Et Grant Morrison, lui, voilà, en gros, il dit, bon, quand j'étais gamin, j'avais pas envie de me coltiner les problèmes des personnages. Je préférais avoir affaire à des personnages qui savent ce qu'ils font, qui arrivent, qui se remontent les manches, qui règlent le problème et qui se cassent. Mais en gros, on va dire que entre l'approche un peu les héros DC Comics version panthéonisée et l'approche pas de héros à problème, mais plutôt des personnages justement très archétypaux et qui changent très peu au cours des aventures qu'ils vivent, en fait. Hein, on va se retrouver avec le travail de Grant Morrison sur la Justice League of America. Alors je précise, hein, il a écrit 40 numéros à peu près, hein, de Justice League of America, avec quelques fill-in, comme on dit, c'est-à-dire des numéros bouche-trou qui vont souvent être confiés aux mêmes auteurs, hein, notamment deux, Mark Waid que je citais justement tout à l'heure, et Mark Millar. Alors bon, Mark Waid, je vais être très clair, autant il a fait des choses très intéressantes avec la Justice League. Après le départ de Grant Morrison, c'est lui qui va prendre le relais, il va faire des choses très intéressantes. Ça paraît d'ailleurs, je crois, ça reparaît ces jours-ci. Autant quand il a fait les épisodes bouche-trou au cours du run de Grant Morrison, c'est vraiment pas sa meilleure veine. Il y a même des épisodes passablement ratés. Certains sont très intéressants, bien entendu, parce que Mark Waid a toujours de la suite dans les idées. C'est un scénariste très généreux, en plus. Mais voilà, il y a notamment un diptyque qui a été réalisé par Mark Waid, là, au milieu du run de Grant Morrison, avec le personnage de Adam Strange, qui est singulièrement raté. C'est très étonnant pour du Mark Waid. Voilà. Et puis, il y a Mark Millar, qui, moi, est un scénariste que j'aime pas beaucoup, qui, à l'époque, était un petit peu le protégé, on va dire, de Grant Morrison. Ils sont écossais tous les deux. Ils ont à peu près 10 ans de différence d'âge. Et Grant Morrison va prendre un peu Mark Millar sous son aile, jusqu'à ce que Mark Millar, dans une espèce de tentative d'assassinat artistique, hein, bien sûr, d'assassinat de son père, donc Grant Morrison, va se séparer un peu violemment de la tutelle de Grant Morrison, mais ça j'y reviendrai dans un instant parce que ça va un peu impacter en fait Grant Morrison sur le plan émotionnel, et en fait ça va avoir quelques conséquences sur son travail, notamment au sein de la GLA, donc la Justice League of America. Alors j'en ai déjà parlé, hein, des épisodes de la Justice League of America par Grant Morrison, parce qu'il y avait un précédent éditeur qui s'appelait Panini Comics qui avait édité on va dire les deux tiers du run, je dirais peut-être un tout petit peu plus, du run de Grant Morrison sur ce titre-là. Ils n'avaient pas été au bout, tout simplement parce que la licence DC Comics leur a échappé. C'est un autre éditeur qui s'en est saisi, qui s'appelle Urban Comics, qui fait du très très bon travail en règle générale, et ça n'a pas loupé, hein. En fait, ils ont repris la publication depuis le début des épisodes de Grant Morrison, mais alors sans oblitérer, comme l'avait fait Panini Comics, les différents bouche-trous que j'évoquais tout à l'heure, signé Mark Waid ou signé Mark Millar. Hein. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de parler du quatrième et dernier volume qui est sorti il y a quelques mois maintenant, il n'y a pas très très longtemps. Le quatrième et dernier volume de la GLA par Grant Morrison, en fait, s'appelle Troisième Guerre mondiale, et il comprend une immense majorité d'épisodes inédits pour les lecteurs français. Ils n'avaient pas été publiés par l'éditeur précédent. C'est pour ça que je voulais parler de ce volume-là en particulier, parce que notamment il comprend probablement ce qui est un des sommets en fait du travail de Grant Morrison sur ce titre-là. Je suis très peu objectif en parlant de Justice League of America, parce que si je ne m'abuse, c'est le premier travail de Grant Morrison auquel j'ai été confronté. À l'époque, c'était publié dans la fameuse revue Strange, très connue des lecteurs de comics francophones, bien entendu. Strange a très très longtemps été habité par des revues, par des titres, pardon, Marvel Comics. Puis à l'époque, l'éditeur qui s'appelait Semic a perdu la licence Marvel Comics et du coup s'est mis à publier des titres DC Comics, hein, le concurrent historique. Et dans les premiers numéros de Strange, version DC Comics, on va dire, il y avait la GLA de Grant Morrison qui m'avait totalement cloué le beignet à l'époque. Hein. Je découvrais le travail de Grant Morrison. Je sais pas, je devais avoir 15 ou 16 ans à l'époque, un tout petit peu plus peut-être. Et j'avais été absolument scotché. Et donc là, c'est avec un grand plaisir que j'ai lu donc ce quatrième tome, Troisième Guerre mondiale, qui va enfin jusqu'au bout du run de Grant Morrison. J'avais jamais fait l'effort de lire ça en VO. Bon, je me doutais que ça paraîtrait en version française de toute façon. Ben voilà, c'est chose faite. Alors voilà, je dirais qu'il y a un gros morceau, même s'il y a plusieurs choses très intéressantes hein, dans ce volume-là. Il y a un gros morceau, c'est la longue saga qui vient clôturer en fait la prestation de Grant Morrison, qui s'appelle Troisième Guerre mondiale, hein, tout simplement, World War III, qui s'étend sur 6 épisodes. Hein. Alors, il y a un autre sommet, un peu plus précoce, hein, qui lui a par contre été multipublié en version française, qui s'appelle Rock of Ages, qui intervient un peu plus tôt dans le run de Grant Morrison. Bon, ça, c'est le sommet absolu de Grant Morrison sur la GLA, et c'est un des meilleurs trucs que Grant Morrison ait jamais écrit. C'est vraiment incroyable, hein, vraiment. Rock of Ages, j'en avais parlé ici, donc je n'insiste pas. C'est vraiment le sommet absolu de Grant Morrison sur GLA, et je dirais même sur les comics les plus mainstream qu'il a pu écrire, les moins barrés, quoi. Hein, on va dire. C'est pourtant déjà bien barré, hein, la GLA par Grant Morrison. Il y a un dernier arc, donc, hein, que j'évoquais, qui s'appelle Troisième Guerre mondiale, donc, qui est très très intéressant. Alors, dans une logique absolument comics en diable dans l'esprit, hein, Grant Morrison nous préparait une espèce de crescendo énorme depuis plusieurs épisodes. C'est qu'en fait les héros allaient être confrontés à une menace qui leur avait été annoncée depuis très très longtemps, depuis même avant que Grant Morrison ne se mette à écrire le titre. Hein. Il y a un personnage qui s'appelle l'Initié, Knowing Man en version anglaise, hein, qui leur dit voilà, vous allez être confrontés à une menace telle que vous n'en avez jamais connue, et c'est pour ça que c'est bien que vous vous remettiez ensemble, parce qu'à un moment donné l'équipe était dissoute, parce que vous aurez bien besoin de ça pour ce qui vous attend. Le personnage en question, la menace ultime en question, annoncé depuis moult épisodes par Grant Morrison, c'est un personnage qui s'appelle Mageddon, qui est à peine un personnage d'ailleurs, hein, c'est presque plus une espèce d'outil narratif, hein, c'est pas un personnage qui parle, qui s'exprime par exemple. C'est la menace ultime qui vient depuis l'extérieur de l'univers. C'est une arme oubliée par des anciens dieux dans une guerre d'il y a plus de 15 milliards d'années. Voilà, ça c'est le pur esprit comics comme on aime et comme Grant Morrison aime bien faire aussi de son côté. Alors voilà, les héros sont confrontés à la pire menace qu'ils aient jamais affrontée. Sauf que là, on a vraiment l'impression que c'est le cas. Grant Morrison a toujours eu ce truc-là pour voilà vraiment montrer que les personnages sont poussés dans leur dernier retranchement. Bien sûr, il faut qu'ils gagnent à la fin. Hein, selon le précepte que Grant Morrison rappelle lui-même. Et oui, les héros arrivent, ils règlent le problème et ils se cassent. Alors là, évidemment, c'est un peu plus dur pour eux parce que la menace est vraiment considérable, hein, mais ils y arrivent tout de même. Alors, deux choses à remarquer, hein, par rapport à ce story arc-là qui vient conclure le run de Grant Morrison et qui est présent donc dans ce quatrième volume de son run. La première, c'est que j'adore la résolution. J'adore la façon dont les héros se débarrassent du méchant, du méchant Mageddon. Je veux pas le révéler ici parce que c'est vraiment la toute fin de l'histoire, donc ce serait un peu spoilé comme on dit. Hein. Mais c'est une idée magnifique, toute simple. J'avais jamais lu ça dans un comics. Je la trouve extraordinaire, cette histoire. C'est presque un peu comme si Grant Morrison réexplorait certaines des thématiques qu'il avait abordées dans des titres plus difficiles d'accès, mais pas moins réussis, hein. Comme Flex Mentallo, par exemple, qu'il a écrit à peu près à la même période, d'ailleurs, où il écrivait GLA. C'est un peu la même idée. C'est l'idée que, voilà, le concept même, la notion même de super-héros est effective dans le monde réel, pourrait-on dire, et ça prend une dimension particulière donc dans le final de Troisième Guerre mondiale et donc dans la façon dont les héros se débarrassent de cette menace ultime qui est donc Mageddon. Bon, ça, c'est, je trouvais ça vraiment une idée aussi brillante que simplissime. J'adore. Et puis d'autre part, alors là, c'est plus adressé peut-être aux spécialistes de Grant Morrison. Il me semble que justement, ce story arc-là, avec ce personnage-là de Mageddon, et là encore, je m'appuie sur ce que Grant Morrison a pu en dire ici ou là dans des interviews. Il est très généreux en interview, Grant Morrison. Il en dit peut-être même peut-être trop, hein. Des fois, sa propre grille de lecture sur son travail peut venir interférer avec celle qu'on aimerait bien appliquer de nous-mêmes. Bon, peut-être qu'il en dit trop, mais des fois, on trouve que d'autres artistes ont le défaut inverse. Alors bon, on va pas non plus lui faire de mauvais procès. Mais il a dit notamment que cette idée de mal absolu, d'ennemi ultime, etc., qui met vraiment les héros à mal, lui est venue parce que à cette période de sa vie, fin des années 90, ça n'allait pas du tout bien pour Grant Morrison, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a été très malade pendant un moment. Et d'autre part, il a eu des ennuis personnels. Donc, bon, en gros, sur le plan personnel, il s'est retrouvé en difficulté, à la fois sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan, on va dire, de ses relations amicales avec certains de ses, notamment, collègues, et notamment le fameux Mark Millar, que j'évoquais tout à l'heure, qui était un petit peu son protégé, son fils spirituel, et qui l'a un petit peu abandonné en oubliant de signaler à quel point le parrainage de Grant Morrison avait quand même été utile au décollage de sa carrière. Grant Morrison en a été très affecté. Il a été jusqu'à dire dans une interview, c'est simple, il l'a dit qu'une fois, hein, mais il l'a dit quand même, il a dit c'est simple, Mark Millar a détruit ma putain de foi en l'espèce humaine. C'est fort quand même comme terme. Donc toute cette espèce de toutes ces bad vibes, on va dire, entre ces problèmes de santé assez importants, hein, il a failli y rester en fait, hein, Grant Morrison. Ces problèmes de santé, ces déceptions amicales et amoureuses qui vont survenir ont fait en sorte que Grant Morrison a un peu changé son fusil d'épaule pour ce qui est de la dépiction du mal dans son œuvre. C'est-à-dire que quand on regarde les BD des années 80 ou des années 90 de Grant Morrison, on constate toujours que le mal n'existe jamais à l'état pur dans ces BD. C'est-à-dire que le mal est toujours relatif. C'est toujours le mal par rapport à quelque chose. Mais le mal absolu, on a l'impression que ça gêne Grant Morrison philosophiquement de l'exprimer. Ou alors, le mal, c'est autre chose. C'est une allégorie pour autre chose. C'est une allégorie pour l'anticonformisme. C'est une allégorie pour la folie. Hein, c'est une allégorie comme ça pour diverses notions, mais qui ne se superpose pas tout à fait avec le mal à l'état pur. Sauf que à partir de la GLA et notamment de ce dernier arc que j'évoque, Troisième Guerre mondiale, et notamment donc de ce fameux personnage Mageddon, on va avoir des représentations beaucoup plus pures, beaucoup plus archétypales, beaucoup plus directes du mal. On a l'impression que Grant Morrison a changé philosophiquement de point de vue sur la question du mal absolu. Et c'est d'autant plus notable que après, dans les bandes dessinées qu'il a pu écrire dans les années 2000, ça va persister. On va retrouver ces espèces de représentations du mal absolu. Il va même aller très très loin dans la matière. Par exemple, j'ai parlé il n'y a pas très très longtemps de Nameless, une BD horrifique que Grant Morrison a réalisée avec son collègue Chris Burnham. Là, il va très loin dans la représentation. C'est normal, c'est un récit horrifique dans la représentation du mal absolu. Donc, à bien des égards, le titre est intéressant à remettre dans le contexte de l'œuvre de Grant Morrison, mais c'est aussi un titre qui se suffit à lui-même. Si vous êtes fan de comics, c'est du comics champagne à tous les étages. Hein. Grant Morrison avait une espèce de devise qu'il ne respecte pas tout à fait d'ailleurs, je trouve. Hein, sur la durée de son run, c'est il n'y a pas de temps faible, il n'y a que des gros arcs narratifs. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas une grosse histoire alternée avec une histoire un peu plus intimiste, etc. C'est que des grosses histoires du début à la fin. Alors, ça marche moyennement au début. Je trouve que ça démarre doucement. Les quatre premiers épisodes sont fantastiques. Et puis, après, ça décolle un peu doucement, je dirais. Et puis, il y a une espèce de crescendo jusqu'au final, hein. Alors, en passant par Rock of Ages, qui, à mon avis, est le sommet absolu de ce run, hein. Voilà. Grosso modo, c'est du comics larger than life, comme on dit, du comics, oui, champagne, pourrait-on dire. Un vrai régal. Alors, le dessin est pas extraordinaire. Il est signé par un certain Howard Porter, qui a un style assez caractéristique des années 90. Mais pas autant qu'on a pu le dire. C'est pas non plus le dessinateur qui va se vautrer dans tous les travers connus et reconnus par les amateurs de comics du dessin des années 90, je sais pas, exemplairement représenté par un dessinateur comme Rob Liefeld par exemple, hein. Howard Porter, il a certes certaines caractéristiques des dessinateurs des années 90, mais il découpe de façon plus classique, je trouve, ce qui est beaucoup plus agréable à l'œil. est beaucoup plus intéressant sur le plan narratif. Peut-être que c'est Grant Morrison qui l'a entraîné par là, hein, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà, ça reste beaucoup plus intéressant que la moyenne de ses collègues de l'époque. Voilà donc pour GLA, notamment, donc surtout aujourd'hui, on a parlé du quatrième volume du run de Grant Morrison, qui s'appelle donc Troisième Guerre Mondiale, et c'est illustré donc par Howard Porter, avec des épisodes fill-in, bouche-trou, signés par Jean-Marc de Matteis. Tiens, il y en a un signé Jean-Marc de Matteis, qui est consacré au personnage du Spectre. Il y a aussi donc des épisodes signés Mark Waid et Mark Millar. Bon, celui signé Mark Millar ne m'a pas déplu, alors que c'est un scénariste que j'aime pas beaucoup d'habitude, hein. Alors, il a la conclusion la plus con de l'univers, mais je dois dire que j'ai bien rigolé. C'est une idée un peu à la con, mais il fallait le faire probablement une fois dans l'histoire du titre. Il l'a fait. C'est une espèce de ruse avec un personnage qui s'appelle Amazo, pour ceux qui connaissent cet adversaire de la GLA. Bon, voilà, un petit twist scénaristique final plutôt rigolo. Pas désagréable, honnêtement, hein, pour du Mark Millar, mais bon, évidemment. L'auteur qui se taille la part du lion dans ce volume, c'est bien entendu Grant Morrison. Voilà pour la GLA donc de Grant Morrison. On va conclure l'émission en musique. Alors, je vais être tout à fait clair avec vous et dévoiler un petit peu les coulisses de l'émission. J'ai failli vous parler aujourd'hui, au moment de la rubrique cinéma, d'un film très cher à mon cœur que j'ai revu pas plus tard que le week-end dernier. C'est un film qui s'appelle Manhunter, alias Le Sixième Sens, pour la version française. Alors, à ne pas confondre avec le film de M. Night Shyamalan avec Bruce Willis, hein, rien à voir. Ce film dont je parle là, il date de 1986, donc 12 ans avant celui de M. Night Shyamalan. Il est signé par Michael Mann, et ce n'est ni plus ni moins que l'adaptation du roman de Thomas Harris qui s'appelle Dragon Rouge. Alors, comme le producteur Dino De Laurentiis du film... Dino De Laurentiis, il a acheté les droits, en fait, des romans de Thomas Harris. C'est lui qui va produire après Le Silence des Agneaux, qui est la suite de Dragon Rouge, Hannibal, etc. Toute la franchise qui tourne autour du serial killer Hannibal Lecter. Hannibal Lecter apparaît d'abord dans le roman Dragon Rouge de Thomas Harris. Et Dino De Laurentiis va vouloir adapter Dragon Rouge au cinéma. Il va d'ailleurs penser à le confier à David Lynch, qui trouvait l'histoire beaucoup trop glauque et violente. C'est plutôt rigolo venant de David Lynch. Voilà. Bon, c'est vrai que l'histoire est très violente et très noire, très sombre, mais bon, David Lynch a un peu donné aussi en la matière. Bon, David Lynch va refuser, et c'est finalement Michael Mann qui va écoper du projet. Il va totalement s'imprégner du projet, hein. Alors à la base, Michael Mann, il a envie d'appeler son film Dragon Rouge, comme le roman dont il est l'adaptation, signé Thomas Harris. Et Dino De Laurentiis, il a peur qu'on prenne le film pour un film de karaté, puisque ça marchait pas mal encore à l'époque. Et donc il va dire, ah non, pas Dragon Rouge, on va plutôt appeler ça Manhunter, alors chasseur d'hommes. Bon, Michael Mann n'aimait pas du tout ce titre-là, mais bon, il va faire contre mauvaise fortune bon cœur, et finalement c'est comme ça que le film va s'intituler. Manhunter par Michael Mann, ça doit être l'un de mes 10 ou 15 films préférés. Je sais plus combien de fois je l'ai vu, je le revois à intervalles réguliers. Ça faisait bien 4-5 ans que je l'avais pas vu là. Donc j'étais content de le revoir. J'ai failli vous en parler, et puis bon, je me suis dit, bon, j'en ai déjà parlé derrière ce micro, en fait, je crois, il y a peut-être 10 ans de ça maintenant. Donc j'ai préféré privilégier un film que je n'avais jamais abordé ici, en l'occurrence Jigoku, dont on a parlé tout à l'heure. Bon, mais quand même, voilà, j'étais un petit peu à nouveau hanté par le film de Michael Mann, Manhunter, qui est un film que, donc, vous l'avez compris, j'aime au-delà du raisonnable. Alors il y a un moment musical extraordinaire, hein, dans Manhunter, c'est quand le détective Will Graham est confronté au serial killer Francis Dollar Hyde. C'est le climax du film, c'est la fin du film. Et à ce moment-là, il y a une musique très célèbre, hein, qui est un morceau qui date de 1968, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on allait revenir vers les 60s, du groupe Iron Butterfly. Alors pour être très clair, le groupe Iron Butterfly est surtout connu pour ce morceau-là, qui est un morceau fleuve. Alors on va pas l'écouter en entier, hein. La version complète du morceau fait 17 minutes, mais elle est très largement instrumentale. Il y a un énorme solo de batterie, par exemple, au milieu du morceau. Mais quand on va chercher la version du morceau qui est présente dans la bande originale de Manhunter, en fait, on se rend compte que Michael Mann a utilisé un montage edit, comme on dit, hein, édité, un montage du morceau qui ne dure que 8 minutes. Et c'est celui-là qu'on va écouter dans un instant. Alors, c'est le moment de la confrontation finale, je le disais, donc entre le héros du film et le grand méchant du film. Alors, la raison pour laquelle Michael Mann a souhaité utiliser ce morceau est assez étonnante. C'est comme il s'est complètement immergé dans la préparation de Manhunter, à un moment donné, il a entretenu une correspondance avec un véritable serial killer, qui s'appelait, je sais plus comment, Denis Wallace, je crois, mais je n'en jurerai pas, bon, peu importe. Et en fait, quand il a commencé à écrire à ce serial killer, il lui a expliqué pourquoi il lui écrivait. Manifestement, le serial killer en question est rentré de bonne grâce dans ce jeu-là. Et puis, dans les confidences qui ont été faites par le serial killer à Michael Mann, il lui a dit, bon, il y a un morceau que j'adore, alors il y a une fille, bon, malheureusement, ça s'est très mal terminé pour elle, bon, en gros, il l'a tuée, hein. Mais en gros, il y avait un morceau que j'adorais écouter avec elle, pour moi, c'était un peu notre morceau, c'est un morceau d'Iron Butterfly qui s'appelle Inagada Davida. Et c'est ce morceau-là que Michael Mann, en souvenir un petit peu de la correspondance qu'il a eue avec ce serial killer, va utiliser dans le climax de Manhunter. Alors Iron Butterfly, c'est un groupe qui est très exactement à la croisée des chemins entre le rock psyché et le rock progressif. On les classe aussi souvent comme un des groupes de proto-hard rock, avec des groupes comme Steppenwolf par exemple, voire certains albums de Jimi Hendrix. Hein. C'est assez vrai, hein, vous allez voir, le morceau a un feeling un peu hard rock. Il a aussi un feeling acid rock, hein, du nom de cette scène rock psyché, on va dire, hein, au sens large du terme, qui a été baptisé par Tom Wolfe, qui a écrit un bouquin sur la question, hein, sur la prise des acides aux États-Unis dans les années 60. Et en fait, ce qu'on appelle l'acid rock, ben, c'est des groupes donc qui faisaient une consommation assez importante de LSD, hein, et qui basaient leurs morceaux sur de très longues improvisations, d'où le fait que les morceaux pouvaient faire 12, 15, 17 minutes éventuellement. Iron Butterfly est évidemment un des groupes emblématiques de cette veine acid rock. Leur morceau le plus connu, vous le connaissez tous, hein, quand vous allez entendre le riff débouler, vous allez vous dire, ah oui, c'est ça. Bon, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu au moins une fois dans votre vie. Alors, une dernière petite anecdote sur le morceau, hein. Le morceau s'appelle Inagada Davida, parce qu'en fait, le jour où Iron Butterfly s'est mis à travailler sur le morceau, voire peut-être lorsqu'ils ont fait une première prise pour l'enregistrer, hein, pour un album, en fait, il s'avère que le chanteur du groupe, qui est aussi l'organiste du groupe, hein, vous allez voir que l'orgue se taille la part du lion dans le morceau, hein, en gros, les deux leaders, on va dire, du groupe Iron Butterfly, c'est le chanteur organiste et le batteur. C'est vraiment les deux postes les plus importants dans le groupe. Et en fait, le chanteur, je sais pas s'il avait bu ou s'il avait pris du LSD, mais il était passablement éméché. En tout cas, il était dans un état second. Et en fait, il devait dire, ça devait être le titre du morceau, il devait dire « In the Garden of Eden », dans le jardin d'Éden. Voilà, en anglais, « In the Garden of Eden ». Et en fait, il était tellement éméché que le batteur comprenait rien de ce qu'il disait. Il entendait « Inagada Davida », voilà, au lieu de « In the Garden of Eden ». C'est donc une espèce de retranscription phonétique approximative de « In the Garden of Eden ». Mais le groupe a gardé, de manière un peu humoristique, je trouve ça plutôt rigolo, la version déformée par les abus un petit peu de leur chanteur de l'époque. C'est parti tout de suite donc pour Inagada Davida de Iron Butterfly, version édite que l'on retrouve donc sur la bande originale de Manhunter. Alors je vous dis pas à la semaine prochaine, mais à dans 3 semaines, après les vacances de Pâques. Je vous souhaite une nuit douce et sans danger. Adio.
Don't you know that I'm loving you? In a God of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? In a God of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a God of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand?
I've got a beat of honey. Don't you know that I'm loving you? And I've got a beat of baby. Don't you know that I've always been true? Oh,